Bienvenue dans Reste une pellicule, le podcast des Time Slip qui réanime les films qui se sont fait démolir, soit en raison de leur échec commercial, soit en raison d'un accueil public catastrophique. Le temps d'un épisode, on les exhume de leur crypte, on leur remet le courant et on voit ensemble si on décide de les sauver ou non. Et vous avez vu le titre, aujourd'hui le film qu'on réanime c'est Grise 2.
J'ai besoin aussi d'un bon shampoing.
Bien sûr, pour quel type de cheveux ?
Cheveux sales.
Oui.
Aujourd'hui, on est toutes et tous réunis pour un podcast qui fait l'amour, qui vit la vie jour après jour, nuit après nuit, parce qu'au fond, à quoi ça sert d'être sur la Terre si c'est pour vivre nos vies à genoux ?
C'est faire nos vies à genoux, je crois.
Oh, c'est
Ah, on t'en va. Quelle intro.
Ça parle de Roméo et Juliette, faut pas le tester.
Elle est à ma gauche, elle me disait pas plus tard que tout à l'heure que la vie, c'est comme le vent, et que vivre, il n'y a que ça qui est important. Et d'ailleurs, elle s'en fout pas mal de la morale. C'est Léa.
Eh oui, bonjour, bonjour.
Alors Léa, pour toi, Grise 2, en un mot, ça t'évoque quoi?
Grise 2, ça m'évoque des lunettes de motard.
Ok, et ensuite, à sa gauche, sa comédie musicale préférée, c'est la même que la comédie musicale de Mario. Et c'est donc...
Mamma mia.
C'est Grégoire.
C'est si faux.
Et donc, c'est ça l'extrait que j'ai pas eu le temps de faire un montage audio. Alors, Grégoire, en un mot, ça t'évoque quoi, toi, Grise 2 ?
Hawaï.
Hawaï, oui, oui, je vois pourquoi. Ensuite, il est tellement fan de la comédie musicale de Damien Chazelle que son président de la République préféré, c'est François Ohlalaland. Et Cortès !
Salut tout le monde ! La La Land que je n'ai pas vu en plus, c'est cool.
Il y en a un qui fait moins
je dirais.
Bon, allez, ça dégage.
Alors, Grise 2, en un mot ?
Ketchup.
Très bien.
Oh putain, oui ! Oh, let's go !
Et enfin, quand elle va au bar pour se désaltérer, elle commande toujours un Jacques Demi.
Putain, oh, c'est très beau !
Oh, c'est génial !
Oh, très joli !
Magnifiquement dit, bonjour tout le monde !
Et Manon ! Manon, Grise 2, en un mot ?
Pollen.
Pollen, très bien. Alors, on va commencer par mettre un peu de contexte dans tout ça, c'est-à-dire que Grise 2, on dit que ça s'est crashé, mais dis-nous en plus un peu, Manon, il s'est passé quoi ?
Donc alors, pour parler du contexte de production de Grise 2, il faut remonter au début des années 70, en 1972 exactement, à Broadway, puisque c'est le début de Grise sur scène, la comédie musicale qui cartonne, qui marche très très bien. Et donc, qu'est-ce qu'on fait quand une comédie musicale cartonne ? Eh ben, on en fait un film. D'ailleurs, petit fun fact sur la version de Broadway de 72, devinez qui a joué pour la première fois Danny Zuko ? Eh bien, c'est Barry Bostwick.
Oh,
entre autres, Brad du Rocky. Donc voilà, on est
Rocky Horror Picture Show.
On est content, n'est-ce pas ? Donc, ça donne donc un énorme succès. On sort un film, cette fois-ci, donc en 1978, qu'on connaît tous, porté par un John Travolta tout en cuir et une Olivia Newton-John en mode Girl Next Door. C'est un succès phénoménal, c'est un des disques les plus vendus de tous les temps, on le connaît tous. Du coup, les producteurs, ils se sont dit qu'ils vont donner une nouvelle vie à cet univers absolument formidable que les gens aiment tant par passion, bien évidemment. Non, en fait, non. Non, c'était pas la passion, c'était pour de la thune. Hein.
En fait, passion de l'argent.
Effectivement, c'est une très bonne passion parce qu'en fait Paramount Pictures voulait surfer sur la vague des séquelles de l'époque et ils sont donc allés voir le coproducteur de Grise 1, Alan Carr, Vroom Vroom, entre autres qui avait produit déjà à l'époque pas mal de choses, dont la version filmée de Tommy, des Who, pour produire un séquel, et il lui dit « Tiens, voici 5 millions de dollars, fais-nous un truc », voire même fait une série de films derrière ça, parce que bon, bah, le succès de Grise 1 avait été tel que bah, ils se sont dit « On va être super rentable », parce que c'est un film qui a un budget de départ assez bas, finalement, donc il lui donne le double de budget de Grise 1, sauf que ça ne se passe pas comme prévu, et au final, en 82, bah, on a Grise 2. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi ça s'est crashé sur place ? Parce qu'en fait, ils ont voulu réengager les stars du premier film, en l'occurrence bon, bah, Travolta, Newton-John et les deux autres, ceux qui jouaient Rizzo et Kentucky en l'occurrence. Ils n'ont pas voulu, bon bah tant pis. Les producteurs, ceux qui donnaient le budget, les costumes, pratiquement tout le monde est parti, sauf une nana. Une nana dont on va parler un petit peu, qui s'appelle Patricia Birch et qui est la chorégraphe du film, la chorégraphe du premier, la chorégraphe d'énormément de succès à Broadway, genre West Side Story, par exemple, pour n'en citer qu'un, mais également de clips musicaux, notamment pour les Stones et Cyndi Lauper. Donc Patricia Birch, elle est restée à la choré, et en plus de ça, elle a coproduit le film, ce qui fait qu'on a quand même une bonne patte de Grise 1 dans Grise 2, ça sort pas non plus de nulle part. C'est un film qui s'est quand même un petit peu rentabilisé à sa sortie. Il y avait 11 millions de dollars de production et il y a eu 15 millions de recettes, donc voilà, ça fait quand même un petit truc. Mais en l'occurrence, Grisin avait tellement cartonné que par rapport à ça, c'est absolument rien du tout. C'est un flop monumental auprès du public. On a un score de 32% sur Rotten Tomatoes, c'est pas beaucoup.
C'est dur.
Les chansons, elles sont moquées par les femmes, le film est moqué par les fans de musicals en général, et même la beauté de Michelle Pfeiffer n'a rien pu faire. On a même l'acteur lead, donc Maxwell Caulfield, qui a très très mal vécu le flop du film, parce que à la base, c'était quand même une star montante, il a fait beaucoup de choses à Broadway, etc. Sauf que il a pu s'en remettre que 10 ans après. Tout le monde s'est foutu de sa gueule.
Il a pas fait grand chose, hein. J'ai regardé un petit peu.
Il a fait beaucoup de merde, en fait. Personne n'a entendu parler. C'est un peu affligeant pour lui. Et donc, pourquoi ça a flopé au final? Il y a pas mal d'hypothèses qui vont rallier le public. Bon, outre le fait de refaire l'histoire de Grise 1, qui n'était pas non plus d'une profondeur incontestable. C'était pas non plus une maxi idée, mais également un argument fort des haters, ça veut dire que les chansons en fait ne correspondent pas au code des comédies musicales, c'est-à-dire qu'une chanson de comédie musicale, elle est censée développer le plot, elle n'est pas censée servir à rien, et là on a beaucoup de chansons qu'on va qualifier un petit peu de chansons filler. Après, bien évidemment, c'est une raison comme une autre.
Je pense que ça sera à débattre, ça, en vrai.
Justement,
c'est à
débattre.
Est-ce que c'est la différence entre un opéra rock et une comédie musicale? Je me suis toujours posé la question.
La différence entre les deux, c'est que comédie musicale, en fait, tu as plein de passages qui sont joués. En fait, tout le film est joué et interrompu par des chansons, alors que l'opéra rock, ça chante tout le temps.
D'accord, ok. Donc en fait, Phantom of the Paradise n'est pas un opéra rock.
C'est une comédie musicale.
Ok, waouh.
Tommy est un opéra rock puisque ça chante tout le temps. Ça s'arrête jamais. Jésus-Christ Superstar aussi, ça chante tout le temps.
Genre tous les trucs de Jacques Demy,
c'est une comédie musicale, oh oui. Du coup.
Ça chante tout le temps.
Ah non, c'est
Demoiselle de Rochefort.
C'est vrai que ça chante tout le temps. Non, donc c'est bon. Je pensais à Podane.
C'est opéra, mais c'est peut-être pas.
Je pensais à Podane, en fait.
Mais donc tout ça pour dire que ce film, il y a eu beaucoup de débats dessus, et à l'heure actuelle, en fait, la communauté de haters est aussi grande que la communauté de fans. Mais si on regarde sur Google, c'est considéré comme l'un des pires séquelles de tous les temps. Donc reste à voir si l'équipe du podcast est d'accord ou non.
Mais ce que tu nous dis là, c'est-à-dire que dès les années 80, faire des suites de trop, c'était déjà...
Oh non, mais ça, ça
c'était déjà le cas.
Ça
hein,
était dans la vibe. Hein.
Ah bah là, clairement.
Les films de la Hammer, il y a déjà eu 300 films de Dracula, etc. C'est quoi votre ressenti autour du film? C'est-à-dire, est-ce que vous l'aviez déjà vu avant le podcast? Cortès, par exemple.
Grise 2, non, là je l'ai vu pour le contexte du podcast. Personnellement, j'aime bien le premier Grise, c'est pas mon film culte ou film de comédie musicale préféré, mais il est cool. Il a un aspect un peu bubble.
Manon ?
Moi, j'ai vu le film quand j'avais à peu près 7 ans, dans la vibe de découverte de plein de nouveaux films musicaux. Je l'avais vu, j'avais trouvé ça vraiment pas top.
Alors moi, autant j'ai grandi avec Grise 1, autant le deuxième, c'est vraiment quand on a préparé le podcast il y a 10 jours que j'ai découvert l'existence de ce truc. Je ne savais même pas que ça existait, et pourtant j'aime bien Michelle Pfeiffer. J'avais aucune idée qu'elle avait joué là-dedans.
Pareil, j'ai découvert le film complètement pour le podcast. Je crois que j'en avais déjà entendu parler, mais je pense que c'est parce que je te connais, Manon, que j'en avais déjà entendu parler. Je pense que j'aurais peut-être apprécié différemment si je l'avais vu plus tôt.
Et moi, de mon côté, je suis... Enfin, à la base, j'aime énormément Grise 1, ça fait partie de mes comédies musicales préférées, et je ne savais pas du tout qu'il y avait un 2, et j'ai très vite compris pourquoi.
Grise 2, c'est parti. Léa, on t'écoute.
Alors, donc, le film s'ouvre sur un plan à la grue avec, on voit de loin, deux personnes qui ressemblent aux demoiselles de Rochefort qui sont en train de déplier un drapeau sur lequel on voit écrit Rydell 1961. Ça nous rappelle qu'on est dans la même école que Grise 1, mais plusieurs années plus tard. Elles discutent entre elles, elles ont un accent bien bourgeois et on apprend que cette année sera merveilleuse et que ça va être absolument incroyable. Et qu'est-ce qu'on entend arriver? Un énorme bruit de freinage avec une voiture qui arrive, qui débarque, et tous les élèves qui arrivent exactement en même temps.
Et soudain, des jeunes de partout.
Des jeunes de partout. Mais d'où viennent-ils? Avec des vêtements aux couleurs chamarrées des années 60 sur une première chanson. Et c'est là qu'on apprend que ce film est effectivement une comédie musicale. Donc au final, pas tant que ça, puisqu'il n'y a pas vraiment de chanson qui lit tout. Chanson qu'on peut traduire en français, mais qui a eu cette idée folle d'inventer l'école?
Je peux pas aller à l'école. Du coup, la chanson s'appelle quand même Back to School Again.
Ok.
Du coup, pour le titre. Juste question comme ça, est-ce que vous avez reconnu la voix du chanteur?
Non.
Non.
Eh bien, c'est le chanteur des Four Tops qui plus tard chantera Audrey 2 pour la petite boutique des horreurs.
Oh, waouh!
Voilà.
Okay.
Donc, c'est la plante.
D'accord.
Qu'on entend.
Eh ben je réécouterai mieux cette musique.
J'ai noté quand même que tous les étudiants qui sont arrivés, on est d'accord qu'ils ont tous 30 ans
oui.
ou 35
non, mais
ans.
C'est pas vraiment ouais. bon.
Ça fait un trop.
Donc effectivement, il y a plein de jeunes qui débarquent de partout en couleur chamarrée.
Ouais, absolument. Et ils disent effectivement que les cours ça pue et les vacances c'était quand même vachement mieux. À l'instar d'une visite de la cafétéria dans Lolita Malgré Moi, on peut voir tous les différents clichés des élèves qui peuplent les murs de Rydell. Alors on a les jocks, les sportifs, on a les pom-pom girls, on a les cool girls qui s'appellent ici donc les Pink Lady, et on a les bad boys qui s'appellent ici les T-Bird, qui sont en gros, ce moto, là où les Pink Lady ont une petite voiture rose digne de Barbie.
Il y a un personnage, on dirait vraiment Patrick Bruel en moto qui arrive d'ailleurs.
Oui,
j'avais fait la réflexion.
J'ai passé 2 heures à me dire, putain, pourquoi il y a Patrick Bruel dans le film ?
Salut, c'est Patrick !
C'est un enfer !
Pink Lady, c'est pas une pomme.
C'est une pomme aussi. Bah après, les T-Birds et Pink Lady, ce sont
c'est
des gangs qu'on retrouve dans le 1.
Ouais, voilà. C'est les mêmes.
Oui, là, en fait, on a déjà plein de personnages. Bah, les deux nanas qui ressemblent aux Demoiselles de Rochefort, elles sont déjà dans
oui, c'est la première.
La directrice et la voix. Les Pink Ladies et les T-Birds.
La première Pink Lady qu'on voit débarquer, c'est Michelle Pfeiffer et c'est la coolitude incarnée.
Non, c'est la dernière. C'est
ouais, elle arrive en retard.
Parce qu'elle est trop cool.
Et il y en a une avec un porte-cigare de malade.
Ouais, elle est trop bien. Celle qui m'a le plus trigger, c'est Paulette, où je l'ai vue, je fais. Bon, alors tout le monde a 30 ans, mais toi, t'as déjà 2 gosses.
Ouais, c'est ça.
Et 3 rembourses, 3 prêts à rembourser. C'est quoi cette histoire ?
Et dans les personnages principaux qui arrivent, donc du coup, effectivement, on a Stéphanie.
Michelle Pfeiffer, qui arrive en retard parce qu'elle est vraiment trop cool pour arriver à l'heure. Et moi, vraiment, dans ce film, elle m'a saoulée.
On en parlera aussi.
Mais vraiment, dès son première apparition, je me dis, ok, elle fait un peu la meuf cool, mais en fait, elle fait pas la meuf cool, elle fait la meuf
relou.
Relou,
elle fait
voilà.
La meuf relou.
C'est ça. T'as vraiment l'impression qu'elle a 16 ans et que c'est sa mère qui lui parle pendant tout le film, et ça commence dès ce moment-là. Et on a aussi le retour de Frenchie, qui est un personnage spécifique de Grise 1.
Qui a redoublé pour la 25e fois, visiblement.
Apparemment, encore.
Non, t'es mauvaise langue. Elle explique pourquoi elle a le retour.
Oui, ouais. Non, pour le
coup. Oui, mais alors, dans l'univers du film, oui, par contre, dans l'univers de la vraie vie de l'actrice, ça fait 25 ans.
Ah oui, non, mais l'actrice a, comme tous les autres acteurs, 47 ans.
Donc Michael, avec ses petits cheveux, sa petite raie au milieu, les cheveux blonds et son petit cardigan et tout, qui débarque, qui explique que lui, il vient d'Angleterre et qu'il est le nouvel arrivant de tout ce lycée. C'est la seule nouvelle personne qui débarque cette année. Les ouais. autres étaient là les 25 dernières années.
ça.
Et ils se connaissent tous. Ils rentrent donc au lycée pour les cours et on assiste à une petite scène dans laquelle on voit le rapport entre donc Johnny, un des T-Birds, le chef des T-Birds.
Ouais, le chef des T-Birds.
Des Patrick Bruel.
Et Stéphanie. et on comprend donc qu'ils ont cassé pendant l'été et qu'ils ne sont plus ensemble. Stéphanie redevient donc célibataire, ce qui ne tombe pas dans les oreilles d'un sourd vu que Michael n'était pas très loin. Et donc oui, ils arrivent tous en classe. Nous avons ensuite un petit aparté de la proviseure, donc une des deux personnes avec le drapeau. Et son... C'est qui ? C'est son assistante.
Oui, c'est la
joueuse. Ouais.
C'est le meilleur couple du film.
Oui, oui.
Ils sont vraiment trop cute.
Et dans les présentations de personnages aussi, en fait, il y a Miss Mason que j'ai appelée, alors je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, la mille flaquée.
Bah,
oui, exactement.
je l'appellerai la mille flaquée.
C'est la prof d'histoire, je crois, c'est ça ?
C'est la prof de littérature.
Ouais, littérature, théâtre. Du coup.
Ah oui, c'est vrai, théâtre.
Avec des cheveux très très hauts et même que les élèves la
citent. Mais il y a vraiment des moments où tu la vois mettre de la laque, quoi, genre littéralement.
Ah bah c'est... 3000 pounds of it par les deux.
Ouais. C'est comme le rocker là, Johnny, qui est vraiment la caricature du rocker façon la Horde sauvage et qui passe son temps à se
peigner et tout.
Bah, ça c'est très grise.
C'est très grise. Ah,
c'était aussi un peu Fonzie dans Happy Days.
Je cherchais pendant le film, ouais, cette ambiance, c'est ça, c'est Happy Days vraiment.
Ah bah là, les années 60 hein, de toute façon.
Années 50,
et
60.
Et puis franchement,
60,
61.
Le fait que la première interaction que t'as de Johnny avec quelqu'un d'autre, c'est qu'on essaie de draguer la MILF dès le début. C'est vraiment MILF laquée, c'est parfait.
Mais cette intro, elle est vachement particulière. Bon, je pense qu'on en parlera dans les années.
Alors, j'ai remarqué directement les chorés. J'ai adoré cette choré.
Ah, la première scène est
très propre.
Elle est extrêmement étudiée pour montrer une bonne ouverture de comédie musicale.
Ah oui.
Justement, elle a tout ce qu'il faut là.
Si. Ouais.
Par contre, moi, ce qui m'a fait perdre dans la choré, c'est qu'ils avaient tous l'air trop heureux. T'es pas heureux quand c'est la rentrée.
Bah surtout que la chanson dit qu'ils sont pas heureux, mais ils sont quand même sacrément là pour des gamins qui ont pas envie de retourner à l'école. Ils sont venus avant, ils sont préparés la choré.
À un moment, ils disent qu'ils sont malades et ils tombent tous par terre.
Oui, c'est vrai.
Et après, il y a Frankenfurter qui arrive.
Non. Oh putain.
Et donc, il rentre à l'intérieur du lycée. Il y a une interaction entre Johnny, le chef des loupards, le chef des T-Birds, et Michael, pardon.
Oui, bah en fait,
bah, il voit qu'elle est intéressée par, qu'il est intéressé par sa nana. Il lui dit genre, et il avance vers ses casiers. Et attention, il ne faut pas toucher les casiers d'un T-Bird. Donc, il lui met la tête dans le casier pour dire, tu regardes pas ma meuf.
Moi, ce que j'aime, c'est surtout qu'il l'agresse en harmonie. Ils sont là, tu touches pas mon casier. Et genre, vraiment, wow, doucement, les gars.
Casiers sur lesquels, en même temps, parce que, bon, en fait, que Michael, il a pas de casier, donc quelqu'un lui dit trouve un casier. Il va aller vers les seuls casiers où il y a écrit T-Bird dessus.
Ne touche pas ce casier. Oh, okay. Le casier.
Et effectivement, t'as l'assistante et la proviseur qui présente du coup Michael en disant on dit tous bonjour à Michael.
Qui devient
Michael.
D'Angleterre.
Exactement.
Et on dit donc, tous bonjour à prof qui revient de son.
Cardiaque.
Monsieur Spears. Son personnage préféré du film. Qui, dès le début, il y a écrit Monsieur Spears sur le tableau, et il y a la dame qui arrive et qui dit et on souhaite le bon retour à Monsieur en VF à Monsieur
Spears.
Et en VF, il l'appelle Monsieur Spears.
Ah.
Et je trouve ça mais à crever de rire parce que le mec il est clairement shooté aux Xanax.
Ouais.
Ah bah clairement il fait une overdose. Donc ouais, la première seconde en fait.
Bah, du coup la VF a mieux compris la blague que la VO.
Ouais.
La VO n'a pas compris sa blague. Ils ont fait une blague
dans sa langue d'origine.
Voilà. Alors moi en VF ce mec m'a fait hurler de rire tout le film.
Vas-y. Donc au niveau du haut-parleur, les deux profs choisissent de réintroduire Michael des fois qu'on n'est pas compris lors de la discussion avec Frenchy qu'il vient d'Angleterre, que ses cousins de bidouille, etc., qui vient d'arriver dans l'école. Mais d'ailleurs, Michael, juste avant d'entrer dans la salle, a aussi croisé pour la première fois Stéphanie, et on peut voir qu'il y a un petit échange de regards et que Michael est déjà complètement croque de Stéphanie dès la première fois où il la croise.
Par contre, elle s'en bat clairement les couilles. Il y a zéro alchimie dans ce truc. C'est même pas un meet cute. Il y a rien.
Ouais, non, juste elle voulait remettre sa jupe. C'est la meuf qui met des pantalons, mais par contre, on la regarde mal en mode ah t'as pas mis une jupe, et elle va mettre une jupe. Bah oui, mais c'est pas ce perso-là.
J'ai même totalement oublié ce truc-là.
Non, bah en fait, c'est toute une évolution de Stéphanie qu'ils ont essayé de faire sur le fait qu'elle est indépendante, etc. Et on verra dans le film que c'est pas réellement le cas.
Ah, ça allait dès le début. Enfin...
Donc voilà, plusieurs passages de vie de lycéen, un petit peu comment ça se passe et tout. Et on arrive du coup sur le stade de sport. On voit les pop-up girls, on voit du coup deux jumelles qui demandent à Michael si il peut faire le pianiste pour du coup le concours de fin d'année. On voit les T-Birds qui du coup font leur sport en soulevant des trucs et qui font tomber leur prof de sport basketball qui est introduit d'ailleurs dans l'intro qui ne servira à rien
et qui est le coach du premier film.
Ah, c'est pour ça qu'il a introduit.
Ils font des liens.
Par contre, j'ai jamais vu des rugbyman genre de football américain aussi peu stock.
Oui,
c'est
un peu des bras, mais
Johnny a un peu des bras.
Johnny a deux bras
comme tout le monde.
Il en a plus que la moyenne.
Ouais, c'est ça.
C'est beau.
Mais ça nous permet de voir un petit peu aussi la dynamique. Ça nous permet aussi de voir un petit peu la dynamique des T-Birds, qui est, je trouve, un des trucs les plus efficaces du film. En fait, ils sont bêtes, mais ensemble ils sont très sympathiques à voir à l'écran du coup.
Ouais, étonnamment, je les ai préférés à Michael. Hein,
ouais, voilà.
Étonnamment, non.
dans le 1, il me semble que justement, John Travolta, il est genre, il est pas bon en sport. Il essaye de se mettre au sport et il est pas bon en sport. Et là, on voit que les T-Birds, pour le coup, ils sont dans ce truc de sport quand même. Donc, je trouve ça assez marrant qu'ils ont changé ce truc-là de perso.
Ouais,
pas juste des rockers, c'est des.
Ouais, c'est des rockers losers. Et dyslexique.
Si loser que ça, ils sont respectés quand même dans le.
Ils sont respectés parce qu'il y a la réputation des T-Birds et que c'est vraiment un club assez particulier dans lequel il faut rentrer, t'obtiens ta veste, etc. Mais dans l'idée.
Mais c'est pas le club d'échecs.
Non, c'est quand même les bad boys.
Mais tu vois, voilà.
C'est quand même des bad boys et donc du coup voilà, on voit la dynamique des T-Birds, on voit la dynamique des Pink Lady avec Michelle Pfeiffer qui quand a des lunettes de soleil ressemble à Debbie Harry, la chanteuse de Blondie. Je ne vois que ça.
J'ai une théorie comme quoi pendant toute cette partie du film elle
est en gueule
de soleil.
C'est bien cette théorie et on a effectivement Michael qui zioote un petit peu plus Stéphanie. Frenchy commence à capter un petit peu ce qui se passe et Frenchy, donc ancienne Pink Ladies du premier film, commence à lui mettre en garde en mode écoute, si tu veux toucher de la Pink Ladies, il faut être un rider, il faut être un biker. Et le truc c'est que Michael il commence à se dire mince, mais j'ai pas de thunes, j'ai pas de bécane. C'est un truc qui se développera un petit peu plus dans le film, voilà. Puis ensuite on a les
plus précisément elle dit qu'il faut être un T-Bird, c'est
faut être
même
un
pas,
T-Bird
même pas
oui, c'est
un biker.
Faut être un
vraiment
T-Bird.
Être un T-Bird, et là, cette phrase que je trouve géniale où elle lâche hein, si t'es pas un T-Bird tu peux pas regarder, enfin tu peux regarder mais pas toucher,
et je te conseille
même
pas de regarder,
évite de regarder,
incroyable.
Et
donc voilà, ça commence à développer développer un petit peu le personnage de Michael très vite fait sur sa quête. Et ensuite, on a la présentation des vrais méchants qui sont...
Le cortège de Johnny Hallyday.
Pour moi, c'est les motards déscolarisés. Enfin, je veux dire, si, les, si le casse de base...
Ils sont pas déscolarisés, ils sont juste bien sûr à la traite.
Ils sont chômeurs, c'est ça. Ils sont
vous voyez les mecs en Harley dans l'épisode de South Park où il y a des Harley?
Ouais.
Il y a que... Non.
Ouais, je l'ai, ouais.
Pour moi,
donc,
c'est...
Donc, il y a une bande de motards un peu plus jeunes et ce qui ont l'air vraiment méchants, contrairement aux
Ouais.
Ils sont des faux méchants.
Oh là là,
ils sont carrément plus vieux.
Et oui, ils sont les plus vieux.
Ah, ils sont
22 aussi.
Ouais. C'est ça.
Ouais, ils sont
jusqu'à 22 sur le stade de foot.
Et comment ils sont rentrés dans ce putain de stade en moto?
Qu'est-ce qu'ils dans cette putain d'école?
Non, il est 14h là, c'est l'heure du soir.
Ils sont réveillés il y a une heure, ils ont pris leur bière.
Ils ont pris leur 8-6 et on y va, quoi.
Je note que les mecs, ils sont 22, ils ont tous minimum 50 piges et ils vont dans un lycée pour menacer...
C'est pitoyable.
4 lycéens.
4 lycéens. Non, mais c'est pitoyable. Et donc, du coup, bah, t'as les Tibers qui essaient de pas perdre la face, tout ça. Et tonight, we ball! Genre, vraiment. Et Paulette, qui est, du coup, parmi les personnages des Pink Ladies, nous avons le personnage de Paulette, donc, dont on a parlé, qui est la plus vieille des Pink Ladies, qui sort avec Johnny, du coup, qui est la nouvelle.
Non, qui a grave envie, depuis que
Johnny est célibataire, puisqu'il s'est fait plaquer par Stéphanie. On voit qu'elle a grave envie de sortir avec.
Voilà. Donc, nous arrivons à la scène du bowling, où les Pink Ladies et T-Birds se font une petite partie de boule, là, comme ça. Et on arrive, ensuite ça s'engueule, les trucs comme ça.
Alors, j'adore le moment où Paulette dit qu'elle ne veut pas mettre ses doigts dans la boule parce qu'elle a des
très beaux ongles.
D'accord, déjà, bravo les lesbiennes. et la façon dont
elle tire.
Paulette tire à quelle patte, j'étais genre...
Moi, je connais ça quand j'avais eu le temps et ça marche très très bien.
C'est vraiment, elle pousse la boule, mais elle strike.
Ouais.
S'il vous plaît, elle strike.
La technique des plans séparés où on voit pas qu'il y a réellement...
Non, c'est tranquille.
Elle a réalisé son trucage, voyons.
Que d'illusions. Et donc, nous arrivons à la chanson We're Gonna Score avec... C'est Let's Score Tonight, avec tout le double sens qu'il faut, comme il faut, qui est une bonne scène chorégraphiée, je trouve, honnêtement.
Mais toutes les chorégraphies
sont très très bonnes.
Ouais.
Alors, pour moi, c'est la dernière bonne choré, mais bon.
Mais par contre, j'ai juste une question, du coup, We're Gonna Score, avec le double sens, il va se passer des choses ce soir. Pourquoi il y a des nonnes en...
Il y a des nonnes dans le 1.
Il y a des nonnes aussi dans le 1.
Il y a des nonnes dans le 1. Je pense que c'est les mêmes. Ils ont passé une petite...
Il y a énormément de références qu'ils ont essayé de caler au milieu du film.
On sent que comme ils n'ont pas pu avoir les acteurs principaux, ils ont collé tous les seconds rôles un peu merdiques. Regardez, on a la nonne du 1. Regardez, on a le prof de sport dont personne n'a rien à foutre qui est de retour.
Ouais, c'est ça.
C'est vraiment le Ready Player One de la comédie musicale. Regardez, c'est le même film que le 1, mais c'est...
T'as la ref.
Regarde.
La chorégraphie de We Gonna Score qui me fait hurler de rire parce que à ce moment-là, tout fan de bowling se tire une balle les mecs ils mordent tous et il y a vraiment une scène où moi je l'ai remis 4 fois parce que j'y croyais pas qu'il l'ait gardé, où il y a un gars qui en dansant balance sa boule sur son voisin.
Je le vois, il y a dû avoir un petit accident, un petit accident de travail à mon avis,
et ils l'ont gardé.
Après là, les problèmes de cohérence dans les comédies musicales, je trouve ça très drôle de les relever, mais on sait que c'est pas
vraiment ça.
Mais jusque là, c'est pas juste problème de cohérence, c'est juste vraiment...
C'est un meurtre.
Donc après cette chanson, quand même, il y a le cri de Johnny qui est hyper gratuit au milieu de la chanson, de ouais, genre au milieu, qui me fait beaucoup rire. Donc après cette chanson plutôt sympathique, on a une engueulade entre Johnny et Stéphanie où clairement on sent que Johnny il s'en est parmi de s'être fait lourder par Stéphanie. Stéphanie qui explique qu'en gros elle est une femme forte et indépendante, qu'elle est libre et qu'elle en a rien à secouer de tout ça. Il y a Michael qui commence à arriver très en retard pour la soirée bowling, qui essaye d'apprendre à sociabiliser. Il a un petit cahier. J'ai pas trop compris, il a un petit cahier. Est-ce que vous voulez qu'on se fasse une partie? Est-ce
que
vous voulez
qu'on fasse un bowling? Il y a un petit cahier parce que je crois qu'il essaye d'apprendre l'anglais américain.
Non, et puis c'est un trop assez commun, le petit anglais qui arrive, qui a pas la même culture du social, justement. Donc oui.
Ouais, voilà. Pour moi,
c'est un nerd, il a un cahier. Quoi.
C'est ça, pour moi, ça renforce encore le côté nerd coincé qui a du mal à sociabiliser.
Et il se trouve donc que par le plus grand des hasards, il rentre dans le bowling juste en plein milieu de
l'engueulade.
L'engueulade entre
Steph et Johnny.
Entre Steph et Johnny. Et au moment où Stéphanie lui dit: ah ouais, si je veux, j'embrasse le premier qui arrive.
Et le premier qui arrive, c'est Michael.
Alors, c'est pas Michael, parce qu'en fait, elle s'avance pour prouver son point, alors qu'il y a un vieux en défibrillateur qui est devant
En défibrillateur, il est en train d'avoir une crise cardiaque, t'es sûr? Défibrillateur, on l'a refait. Défibrillateur, ça va être très bien.
On la garde, elle est géniale.
Donc, elle va pour pécho le vieux, et là, comme par hasard...
Le vieux, il est juste en terminale, en fait.
Non, il est en face terminal, il est en face terminal.
Eric, il est perdu, il a marre déjà.
Bon, c'est bon, ça.
Donc, elle peut embrasser n'importe qui traversera cette porte. Et celui qui traverse cette porte, c'est Michael. Gros bisous, un peu en mode joke, un peu en mode.
C'est clairement un smack.
Ouais, ouais.
C'est...
Et voilà, il se passe ça. Et puis, pas grand chose. Il se casse, il est en mode what? Bah, finalement, on fait pas partie de bowling. Et tout le monde dit non, on va partir manger.
Et alors, c'est à ce moment-là que vous vous souvenez pourquoi ils étaient allés au bowling à la base?
Bah, c'était.
Pour moi, c'était pour faire une battle avec les gros motards.
Voilà, qui ne sont jamais venus. Et j'ai fait, mais attends, il manque tout un groupe de personnes.
Ah bah, il y a match et il y a pétanque après, donc ils pouvaient pas.
Attends, ils sont partis chercher les gosses à la.
Tu m'étonnes.
Et donc, au bowling, tout le monde se casse et il n'y a plus que Michael, qui reste tout seul, mais pas tout à fait tout seul.
Puisque nous avons Dolores qui est du coup.
C'est la petite sœur de Paulette.
C'est la petite sœur de Paulette ?
Oui.
Ah, il le dit à un moment ?
Oui, il le dit, c'est la petite sœur de Paulette.
Et on dit pas son âge, mais elle doit avoir quoi, 14-15 ans ?
Alors, elle dit qu'elle est en. Combien de grade ?
Pour moi, elle a 13 ans. Pour moi, elle a 13 ans, grand
médecin. Ouais, elle a 12-13 ans.
Mais...
Non, là, elle en a 12-13. Non, là, pour le coup, elle fait très jeune.
Dans ma tête, je préférais penser qu'elle avait 16 ans.
Non, arrête, elle a des petites couettes. Pour le coup, c'est vraiment la petite sœur qui trimballe au bowling.
D'accord.
Et je trouve qu'on a quand même un problème avec les Dolores dans ce podcast.
Oui, alors j'allais justement le dire, c'est que.
Bah oui. C'était un choix.
Non, mais là, Greg comprend pourquoi. Parce que, on peut faire la petite promo, genre Lolita, qui est Dolores. Le vrai nom de Lolita, c'est Dolores.
J'ai eu un flashback à la Apocalypse Now, là.
Ouais, je comprends. Donc,
il faut faire rapprochement, putain.
Donc Dolores. Autre qu'être la sœur de Paulette, c'est en fait une wannabe Pink Lady. Elle veut être la mascotte slash stagiaire des Pink Ladies.
Elle se rêve devenir la présidente des prochaines. Ouais,
carrément.
Elle est la mascotte et c'est ce qu'elle a trouvé pour rejoindre un peu le groupe plus tôt. Tu vois.
Et donc, du coup, tu as cette interaction très bizarre entre Michael et Dolores, donc, où c'est en mode, est-ce que tu veux que je te raccompagne? Mais j'ai pas besoin d'un babysitter. Est-ce que tu peux voir ça comme un date? Ok, let's roll.
T'es en mode, pourquoi,
était-ce bien nécessaire, surtout? Ah, mon Dieu. Bon, il n'est pas bon d'être une Dolores dans ce podcast.
Tout à fait. Cela dit, Michael n'a d'yeu que pour Stéphanie et donc il raccompagne Dolores.
C'est pas glauque, c'est juste bizarre.
Mais il la raccompagne uniquement pour qu'elle soit en sécurité parce qu'il fait nuit et donc il la.
Oui, voilà.
C'est un nice guy.
Voilà.
Il n'y a pas de sous-entendu.
Voilà, entre Michael et Dolores, tout va bien. Et donc le lendemain.
Nouveau jour et on se souvient de Mr. Spears qui a fait une overdose dans sa salle le premier jour et donc qui va le remplacer en bio, c'est Mr. Stewart qui est un petit peu paumé. On lui montre un petit peu. Le lycée, donc les deux nanas au drapeau, au xylophone qui font les annonces.
C'est le nouveau prof remplaçant, du coup. Ouais.
Donc c'est le prof remplaçant. Qui a globalement. Je ne saurais pas à qui le comparer, mais bon, il est vieux, il a des lunettes. Et pour une raison que j'ignore, tout le monde va simp sur sa gueule tout le film.
Non, en vrai, il n'y a que la Miff Laquée qui simp. Franchement, c'est une des rares blagues qui m'a fait rire dans le film. C'est le côté où la première interaction avec les élèves, c'est « Bonjour, je suis Monsieur Stewart, le prof remplaçant. » Et tous les élèves se cassent. On se fume une clope.
Littéralement, en fait, on voit à peine son cours. Ils rencontrent un moment Mrs. Mason et ils ont une interaction un petit peu flirty-ish.
En fait, c'est en fond.
Vraiment de l'arrière-plan. Et donc, ça sonne, tout le monde va en cours. Mais qui est-ce qui traîne dans les couloirs? C'est Johnny et...
Son pote Goose. Ouais. Le grand débile.
Ah, je l'adore, lui.
Ah, il est excellent.
Pendu à un truc.
Sauf qu'on est dans les années 60 et on est dans Grise, donc évidemment, ça clope à balle tout le temps. Il fume dans les couloirs parce qu'il ne peut pas s'en empêcher. Et là, la Dirlo arrive et donc Johnny met sa clope dans sa bouche et elle lui fait un petit peu la morale pour dire « Oh, cette année, ça va pas se passer comme ça. »
C'est vraiment les blagounettes un petit peu de vie de lycéen.
Oui, voilà, petit gag de « Il est en train de se faire cramer, littéralement. Il a de la fumée qui lui sort du nez, tout ça. »
Qui est un peu drôle. Enfin, moi,
franchement, assez sympa, d'autant plus que la Dirlo se casse et en fait, Michael veut aller se rincer la bouche et son pote le fait sursauter, je sais pas quoi, donc il avale sa clope. Enfin voilà, il y a un petit truc comique comme ça. Le talent show dont les deux jumelles ont parlé juste avant sur le stade de foot pour dire à Michael, est-ce que tu peux venir jouer du piano, c'est pour la fin de l'année, c'est un peu le fil rouge du film. On est dans ce, dans, dans ce genre de trope où le truc qu'on attend, c'est la comédie musicale de fin d'année. Et donc, ben, on voit que un petit peu tout le monde s'y met. Franchement, tout le monde est assez assez chaud pour ça. On a les T-Birds qui veulent faire numéro, les Pink Ladies qui sont super chauds aussi parce qu'elles veulent gagner le Grand Prix, tout ça.
Et le Grand Prix d'ailleurs qui sont plein de vinyles.
C'est en fait c'est 100 albums. Enfin, en VF ils disent 100 albums, parce qu'ils sont vraiment teubés donc ils savent pas ce que c'est.
Ah, c'est
et ils disent ouais trop bien, il y a des trucs, ça a l'air trop cool. Il y a genre Beethoven, je connais pas, mais ça a l'air pas mal. Ils sont vraiment comme ça.
Ah ouais.
Et ils ne savent absolument pas ce qu'ils vont récupérer.
Ah, mais on est sur un lycée d'illettré, hein. Vraiment, c'est terrible.
Et en plus, comme ils ont 30 ans, du coup, t'as l'impression que c'est vraiment une école spéciale. Ils sont tous très cool, mais ils sont tous spéciales.
Un petit truc en plus, la comédie musicale.
Et donc, pendant toutes les répétitions, aussi au piano, c'est Michael, et donc ça lui permet de rester un peu.
Ça lui permet de zioter Stéphanie un petit peu, parce qu'elle, voilà, elle a une super robe sapin de Noël, parce que, ben, on verra à la fin du film, il y a une chanson qui s'appelle Girls for All Season. Qui est donc la chanson des Pink Ladies où elle se change en plein de tenues et tout. Donc là, on a quand même un petit sneak peek des costumes de fin qui vont être assez cool et ça, j'aime bien. Et donc Michael veut Stéphanie, il parle à Stéphanie et là, Stéphanie, elle lui dit non, mais toi, tu comprends pas, je pourrais jamais être intéressée par un mec comme toi parce qu'en fait, moi, je veux un Cool Rider qui est donc le deuxième single de.
Le film, ouais.
Du film, hein, voilà.
On pourrait lui faire rencontrer Nicolas Cage.
Ouais,
oui.
Ghost Rider.
Non, mais là pour le coup, la chanson, je vais pas mal défendre ce film, mais là, cette chanson, moi, je ne peux pas, je ne l'aime pas du tout.
Bah, en vrai, là, c'est la première fois qu'on entend Michelle Pfeiffer, du coup, chanter dans le film.
C'est vraiment intéressant.
Je m'attendais pas à ce qu'elle ait cette voix, mais en vrai.
Moi, je trouve qu'elle danse pas bien et elle chante pas bien.
Ah bah sa choré, je crois que sa choré c'est la moins vraiment le moment à la fin de la chanson, elle se barre, la musique est en sorte de.
C'est un fade out.
Un fade out, merci. Vraiment elle se barre, elle saute sur place, c'est absolument ridicule.
On dirait, tu sais, les without sound, la traîne sur YouTube où t'enlèves le son.
Ah oui, bah, sound et t'entends les claquements.
Oui, c'est ça, c'est pas le bruit du ventre, ça fait vraiment ça et tous les gens autour sont normaux, personne ne danse sauf elle.
Moi ce qui est bien c'est que au bout de 10 secondes de la musique, j'ai fait bon. Flemme, j'ai mis x3, c'était génial.
Oui, mais littéralement, parce qu'en fait, la chanson ne dit rien, à part effectivement bah, le titre, c'est-à-dire qu'elle veut un mec qui fait de la moto, et que c'est ça qu'elle veut, et qu'elle attendra toute sa vie s'il faut, mais qu'elle aura son mec à moto à la fin.
Heureusement que c'est une meuf indépendante.
Exactement.
Aïe,
au moins, la chanson sert effectivement au plot, simplement, bah, c'est un élément de plot qui aurait pu être résumé dans une ligne de chanson, et pas forcément en faire 2 minutes 30 de ça. Et donc, elle s'en va, Michael la regarde partir au loin.
Alors, ça, c'est très très drôle, parce que le truc, si vous écoutez bien, c'est que du coup, t'as Michael qui commence à être alpagué par les T-Birds pour des aides au devoir. Et en fait, t'entends derrière Michelle Pfeiffer, I wanna see O.O.F.
Et donc, Michael est absolument dégoûté parce que du coup, Stéphanie en a absolument rien à foutre, mais il commence à fomenter un plan.
Alors oui, en fait, après que Stéphanie ait eu besoin de lui faire tout un morceau pour lui dire que, bah, arrête de forcer, t'as aucune chance, et que lui, il se dit, je vais quand même forcer au cas où ça risque de passer, il y a effectivement un T-Bird qui arrive et qui lui dit, mec, j'ai un devoir à rendre, tu veux pas, tu le fais pour moi, je te paye. Et du coup, l'idée magique arrive dans la tête de Michael qui se dit, vas-y, je vais prendre l'argent pour me payer une moto. Et ce qu'il dit pas, mais que t'entends clairement, c'est pour pécho Stéphanie après.
Ah oui, c'est littéralement thune égale bécane égale gonzesse.
Et alors là commence un petit jeu au niveau des cours, des devoirs qu'il fait pour les T-Birds que je trouve génial. C'est que dès le premier échange, il lui dit, c'est un échange et ça doit être discret.
I've got a rep to protect.
Alors, dès le début, il part dans une grosse métaphore sur la weed, mais qui me fait crever de rire. Et à chaque fois, ils sont en mode, oui, faut pas que tu le dises, j'ai une réputation à tenir. Oui, bon, bah, tu fumes dans ton lit comme tout le monde, enfin, à un moment, faut arrêter, quoi.
Comme tout adolescent de 27 ans.
Comme tout adolescent de 27 ans, tout à fait. Donc, le premier échange se passe dans la man cave, comme ça que je l'ai appelé.
C'est un bunker.
C'est un bunker.
Oui, c'est clairement un bunker.
On est dans les années 60.
Oui, guerre froide mood, hein, voilà. La baie des cochons, tout ça, c'est vraiment cette année-là. Donc, il y a quand même ce climat qui penche tout le film.
C'est clairement un abri anti-atomique. Je trouve qu'il y a vraiment un délire man cave en mode hey, c'est sympa ton truc, il n'y a personne, ce serait vraiment cool pour baiser des meufs. Il appelle ça un anti-anatomique et je trouve ça très drôle.
Ouais, parmi tous les exemples de dyslexie qu'ont les T-Birds.
Et donc on enchaîne sur un cours sur la reproduction de la part du professeur remplaçant,
Mr. Stewart.
Et on note que pendant ce cours, il y a quand même les trois mecs au premier rang qui bossent à fond la théorie. Et donc pendant ce cours, le prof décide d'interroger un T-Bird et commence un vieux jeu où ils disent, ah moi je sais pas, demander à machin, et arrive à demander à Johnny. Johnny qui se réveille et qui a clairement un Playboy caché derrière son bouquin de SVT.
Mais t'as vu comment c'est le bordel aussi en classe, dès qu'il rentre en classe, t'as le trope typique du l'avion au papier, tout le monde se marche dessus, tout le monde reluque la mi-flaquée, enfin,
ah, mais
évidemment que c'est le bordel quoi.
C'est vraiment l'archétype, tu vois, le premier rang il y a les intellos qui écoutent,
ouais,
deuxième
fond,
troisième rang il y a les gens random, et au fond ils sont assis sur les tables, ils sont en train de fumer des clopes, ils lisent des Playboy, tout va bien. Donc bref, ils se renvoient un peu la question du prof en faisant des blagues de cul, et puis après bah ils se mettent à chanter. Alors moi c'est un truc que j'ai pas dans les comédies musicales, quand ça se met à chanter comme ça je suis un peu du père.
Ouais. Pardon, t'es pas dans les comédies musicales quand les gens se mettent t'as chanté. Ouais, c'est parfait, la chanson.
Moi,
est
je trouve
géniale.
Que ta transition est super.
La chanson est géniale.
Le prof chante mal, mais la transition, pour moi, elle est smooth. Hein.
Mais en fait, ce que je veux dire par là, c'est que moi, la première fois que je vois le truc, je me dis, qu'est-ce qui est en train de se passer?
Tes profs de SVT, ils ont jamais chanté en classe?
Alors moi, mes profs de SVT, ils ont pas fait leur reproduction. La voix des collègues privés.
Moi, j'ai mis des capotes sur des bananes en cours de SVT
sur des pieds de chaise.
Tu retournes la chaise, ça fait
que ça. C'est la fameuse blague.
Non, mais c'est même pas une vanne, c'est vraiment ça qui s'est passé.
Non, mais je veux dire,
je l'ai vécu aussi.
Ah ouais.
Oh yes.
Donc, ouais, arrive la chanson Reproduction.
Globalement, je veux pas trop m'éterniser dessus. Non. Elle est marrante.
Bah, c'est une tentative de reproduction de Summer Nights du premier, en fait. Il y a les mecs contre les meufs, une vision différente, un côté un petit peu goofy, un petit peu beauf. Bah, c'est pas Summer Nights, mais en vrai, ça passe.
De manière générale, genre, je pense pas qu'on parlait de reproduction de manière aussi. 60.
Même qu'on le dessinait. Parce que...
Ouais, il y a un vagin. Il dessine un vagin.
Ouais, c'est le premier truc que tu vois au tableau. C'est-à-dire que la caméra arrive dans la salle et tu vois un énorme vagin dessiné au tableau pour un truc qui se passe en 61. T'as... Oh, putain, mais qu'est-ce qui se passe?
Ouais, c'est
non,
ça.
Et en plus, après, ça parle de fleurs et tout, parce que du coup, ils font que des métaphores vis-à-vis de ça. D'où mon mot pollen au début du podcast.
Ah ouais.
Je l'ai eu après, mais je l'ai eu.
Et la musique s'arrête nettement quand la proviseure rentre et fait « Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel ?» Le prof se fait accessoirement engueuler parce que « Puis oh, c'est des étudiants, faut pas leur parler cul quand même. »
Mais justement, elle se fait karma par ça juste après. Ouais. Et toi qui as vu la VF, j'ai une question pour toi, parce qu'il y a une réplique en anglais où t'as une nana qui va voir la directrice pour dire « Oh, I've missed my last two periods. Oh, that's alright, dear, you make them up after school. » Qui, bah, du coup, est un jeu de mots sur le mot période. Qu'est-ce qu'ils ont fait en français?
Elle arrive, elle fait « Bon, moi, ça fait 2 mois que j'ai pas eu mes règles. » Elles font « La prof, je réponds. Tu viendras les récupérer après le cours. » C'est globalement le jeu de mots qu'ils ont fait, c'est « j'ai pas eu le règlement ». Elle fait « tu le récupéreras après le cours ». Elle fait « oh merde ». Et elle comprend après. En parallèle de tout ça, Michael continue de faire les devoirs des T-Birds pour s'acheter sa moto. Et il y va et il achète une moto Ikea en vrai. Hein.
Il va voir un garagiste et le garagiste ne lui fit pas une moto. C'est-à-dire qu'il lui fit l'accès à un cimetière de motos en lui disant « vas-y, récupère des morceaux et à partir des morceaux, crée-toi ta moto ».
Et c'est très cool. Mais pourquoi il a payé pour ça?
Parce que...
Bah, les pièces, ça coûte de l'argent.
Ah ouais, ça coûte quand même de l'argent. Hein,
c'est comme si t'as acheté toutes les pièces d'un ordinateur.
Et du coup, il commence à monter sa moto et il passe pas mal de temps et il commence même à s'entraîner avec parce que finalement, elle arrive à rouler. Par contre, il est nul à chier.
Pour l'instant, il roule pas très bien.
Bah, c'est Training Montage, en fait.
Ah, c'est littéralement
Rocky.
Training Montage sur... Enfin, avec un fond de Cool Rider du coup pour motiver Michael parce que son vrai but c'est vraiment Stéphanie.
Et on arrive enfin à la première partie des sélections pour le concours de chant. Donc ce qui se passe, c'est que bah, pour participer au concours de chant de fin d'année, faut être sélectionné et donc ils font passer des auditions. Moi, ce que j'ai pas compris, c'est qu'il y a certains groupes qui passent à chaque audition.
C'est beaucoup d'investissement pour un truc où ils ne savent pas encore s'ils vont jouer, tu vois.
Après, c'est typiquement américain, les délires de comédie musicale, concours et tout ça. En France, on en a un petit peu, mais après, aux États-Unis, c'est vraiment c'est normal, c'est la base.
C'est chaque année pareil.
Et alors, moi, ce que j'ai noté surtout, c'est que, en fait, tout le monde chante hyper bien dans ce lycée. Ils sont tous complètement cons. Par contre, qu'est-ce qui chante bien? Sauf cependant, arrivent les T-Birds qui sont mais nuls à chier.
Non, ils chantent bien.
Justement, en fait, ils goof around, ils sont pas prêts, etc. Ça prépare la chanson qui après sera bien chantée, mais effectivement, on dirait qu'ils puent la merde.
Quand ils sortent de là, ils font faudrait peut-être qu'on s'entraîne un peu. Ouais, peut-être. Ouais. Là, c'est pareil,
bah déjà, tu sens que quand même l'acteur qui joue Johnny pour la scène de bowling, non, ça tient la route niveau chant. Hein, ça se voit.
Donc à côté, après les trois qui chantent merveilleusement bien, je ne sais comment.
Qui font Mr. Sandman.
Ouais, qui sont incroyables. Tu fais, bah les gars, c'est foutu. Et pendant ce temps-là, donc, Michael continue de s'entraîner et devient pas mauvais à la moto. Il fait même des roues arrière et tout.
Et il y a Frenchie qui prenait son cachet la scène d'avant, d'ailleurs.
Oui, il y a Frenchie qui est là.
Non, parce que voilà, toutes apparitions, faut les noter quand même. Hein, parce que...
Elle n'en a pas beaucoup. Ouais, Frenchie, elle est là pendant un training montage de moto.
Ah oui, c'était dans celui d'avant.
Ouais, et c'est celui d'avant. Mais après, c'est pas marquant. Elle est en mode, mais dis donc, t'es en train de faire de la moto pour Stéphanie. Le mec, il fait wink wink, t'inquiète.
Et il part. Tout.
Voilà.
Oui, c'est vrai qu'elle est vraiment là pour être là. Genre, en fait, j'ai un peu oublié ce personnage.
Bah, c'est le personnage classique de la confidente qui permet en fait au héros ou à l'héroïne de raconter un peu où est-ce qu'il en est, de ce qu'il essaye de faire, etc. Donc effectivement, elle est là juste uniquement en tant qu'observatrice et pour recueillir un peu ce qu'il a à dire de temps en temps. Ouais. C'est sûr que le personnage est absolument pas développé, c'est pas vraiment le but non plus, quoi.
Oui, clairement. Et donc lui commence à devenir bon en moto. On retourne sur les T-Birds qui font vraiment bon, ok, faut qu'on s'entraîne comme ça, on peut gagner les albums. Et on retourne enfin sur Michael qui a terminé. Il s'est enfin un vrai motard et pour pour le prouver, il a dessiné des petites flammes sur le réservoir de sa photo.
Il est prêt.
Ça se peut que c'est con, un rebelle, t'as vu. Et pour fêter tout ça, comme d'habitude, tout le monde va au bowling. Quand ils arrivent, Belmondo, c'est comme ça qu'on se... je suis pas sûr du
Belmondo,
nom.
Belmondo, oui.
Belmondo, ok.
Non, c'est Balmudo. Mais oui, on peut appeler Belmondo.
Ah oui, moi, ça, moi je...
Le méchant s'appelle Balmudo. Mais...
Sérieux?
Ouais, Balmudo.
J'avais
moi, j'ai entendu Balmondo
en fait. Méchant motard numéro 1.
Je vérifie sur les sous-titres, c'est Balmudo. Il a une sale gueule toute grêlée.
Oui, il a une gueule super belle.
Il a un visage en Ridley un peu.
Un peu.
Ah, donc c'est Dolores qui arrive en skate et qui voit qu'il est tout seul. Je crois qu'elle lui file un coup en passant.
Elle se moque de lui.
Elle lui dit, insulte. Ouais.
Voilà, c'est
ça. Mais tellement meilleur perso. Voilà.
Dolores, ouais, elle a plus de couilles que 90% des mecs de cette série.
Après, elle fait 1m50, donc je me reconnais beaucoup dans ce personnage.
Et en rentrant, elle va directement voir Etibar en disant, hé, les gars, il y a Balmudo qui est tout seul dehors. Et donc là, Johnny se retourne en mode, allez, on y va. On est trois, il est seul. Franchement, il y a un monde où on gagne.
Pas sûr, mais je rappelle qu'il a Goose. Goose qui ne sait pas allumer un feu. Il ne sait pas allumer un bruit.
Oui, c'est vrai qu'il... Oui. Et oui, mais ils sont tellement sûrs d'eux qu'effectivement, ils se font allumer sa clope et ils sortent la clope au bec pour arriver devant Balmudo pour se battre. Mais entre-temps, le reste du gang est arrivé. Et à 3 contre 15... Oh, ça le fait moins. Ça le fait tellement moins que Johnny, on fait disparaître sa clope.
Monsieur Fort Raccord. Chaque fois, t'es sur les Fort Raccords.
Il a encore mangé une clope.
Non, mais j'adore les Fort Raccords. J'adore les Fort Raccords quand c'est super cohérent. Dire que là, enfin moi dans ma tête, juste il était tellement choc-barque la clope.
C'est barré la clope.
Et du coup pour moi c'est pas un faux raccord, c'est que vraiment la clope elle a fait oh non, laisse tomber, j'arrête, je me barre.
Ce qui est le cas d'ailleurs des T-Birds, ils sont en mode laisse tomber, je me barre.
Et du coup justement ils se barrent, ils s'enfuient. Le problème c'est qu'il y a, je crois, j'ai envie de dire c'est le plus jeune, mais c'est peut-être juste le plus petit des T-Birds. Lui on lui apprend après, bah je crois toujours par Dolores que hey, il y a Balmudo qui est dehors, ils vont se taper, il fait oh putain je suis à la bourre, et donc il arrive en courant et il se retrouve
tout seul
contre qu'un bonhomme de 45 ans.
Il arrive en fait en courant en disant ouais, face de rat.
Ouais, je vais te péter la gueule. Oh non.
Allez, voilà.
Ça, déjà, il s'apprête à se faire péter la gueule, hein, clairement. Et quand tout le monde croit ce T-Bird foutu, arrive d'un coup un mystérieux motard tout en cuir vêtu qui vient le sauver.
C'est Mickaël, le motard mystérieux.
C'est pas qui.
Il a des lunettes, alors on peut pas le reconnaître.
Il a un casque aussi, on peut pas le reconnaître.
Et il a une veste en cuir, mais rien en dessous.
Il a pas
de fond. Je suis désolé, elle fait plus d'efforts que Clark Kent, donc on peut le reconnaître qu'on sait pas qui c'est.
C'est vrai. C'est...
Parce qu'en fait, il y a une métaphore de Superman après, je sais pas.
Est-ce qu'on peut dire que c'est super motard du coup, comme ça?
Oh oui,
SM.
Ah, j'aime bien motard mystère.
Attends, SM.
Super motard, ça fait
SM. Super motard, c'est pas mal. Ouais. Après, j'avais entendu, genre, au niveau de l'écriture et tout ça, qu'ils voulaient faire les origines de ce perso français pour qu'il devienne le motard de Dijon.
Oh non, cherchez loin, c'est
non. Non, c'est non.
Et valide.
Faut pas lui valider ça, il va recommencer.
Et donc effectivement, qu'est-ce qui se passe?
On a... Et bah, on le voit arriver, tel un cavalier qui surgit et qui roule vers l'aventure au galop. Et en fait, ce qui passe, c'est qu'il passe en roulant très très vite et il donne un coup de pied à Balmudo. Et Stéphanie voit ça et Stéphanie le voit. Et elle le regarde là pour la première fois, elle le voit avec amour. On voit
sans
que oh waouh,
on parle de la petite musique quand même.
Bien sûr. La chanson Who's That Guy?
Ouais, j'aime beaucoup. Et encore une fois, j'ai un petit amour pour les chorés de ce film. Et la choré en moto est vraiment cool aussi.
La chanson est cool.
Et la chanson est
super naze. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de voûte entre Mickaël qui est moto, super motard, et en fait ils se croisent façon voûte médiévale avec les deux mecs avec leur lance.
Ouais, mais c'est tout mou.
Mais, non, mais moi j'adore, c'est génial.
Il y a tous les personnages qui chantent, les Pink Ladies elles sont en admiration, t'as les T-Birds qui sont jaloux, t'as les gens ils savent pas trop.
Il y a des gens sur des voitures.
Des camions, des motards, t'as un projet derrière qui donne un aspect un peu mystérieux.
C'est ralenti ce truc.
Et alors, non mais c'est beau,
c'est gris.
Mais c'est ça, c'est
Il passe à chaque fois
entre les deux s'écartent. Alors, genre
mes nièces qui ont 6 ans et 8 ans qui font de la draisienne, elles vont plus vite quoi.
Bah après c'est honnêtement ce genre de défaut, bah tu l'as aussi dans les années 50 avec l'épopée sauvage et trucs comme ça. West Side Story, enfin il y a des scènes de baston, ouais, non, mais... c'est pareil quoi.
En fait je pense que soit t'acceptes ce côté hyper kitsch de comédie musicale et tu dis ok c'est le truc, il y a des choses qui sont à revoir, mais soit t'acceptes et t'es en mode ok le type il passe, et moi je trouve ça super beau de le voir passer.
Ou des trucs comme ça, les bastons chorégraphié au couteau, je sais que c'est de la danse, etc. Mais il y a un truc qui marche vraiment. Là, la joute, la baston à moto, c'est juste ridicule.
Non, c'est esthétiquement, moi je trouve ça beau. Genre, esthétique là.
Je trouve ça ridicule, mais j'adore ça.
Ouais,
ouais,
c'est kitsch, mais esthétiquement, j'aime bien.
Je suis capable d'apprécier kitsch, mais c'est... le problème, c'est pas que ce soit kitsch, c'est que ce soit naze, en fait.
Alors, c'est ton avis, hein, Eric. Hein,
ça, c'est un... ça, c'est un double feeling qui commence déjà un petit peu à résumer Grise.
Je continue donc cette Corée que moi, j'adore, personnellement, où il passe entre le gang des méchants et il les fait tomber un à un. Les méchants se relèvent à chaque fois et continuent à le poursuivre jusqu'au moment où ils décident de monter sur une voiture et là, ils ne peuvent plus l'atteindre parce qu'en fait, depuis le début, ils jouaient à motard perché. Et donc là, il était sur la perche et donc, ah zut alors, on ne peut plus l'atteindre. Et ils se barrent tous, vraiment, sans aucune raison. Une fois que la bagarre se finit, on a un plan sur Stéphanie qui discute avec une des Pink Ladies.
Voir toutes les Pink Ladies, parce que les T-Birds, eux, sont rentrés. Enfin, ils vont rentrer au bowling.
Ouais, il y en a une avec qui elle discute à la fin et tout le monde est sorti sauf.
Oui, bah, c'est Paulette. Elle discute c'est avec Paulette.
Voilà. Et elle discute et Paulette lui dit écoute, il y a un peu des rumeurs sur toi parce que tu sais, les Pink Ladies, elles appartiennent quand même aux T-Birds. Et là, on a l'impression que toi, les T-Birds, bah, ils t'intéressent plus trop. Ce à quoi elle répond. Mais non, mais moi je suis une femme indépendante. Je prends mes propres choix. Tu vas pas me dire ce que je dois faire ou ce que je dois pas faire.
Ouais.
Donc là, elle essaye d'allumer une petite clope pour se détendre et elle arrive pas à allumer son allumette. Mais apparaît devant elle un briquet avec un gant. Et elle relève la tête et elle voit que c'est le motard de Dijon.
Le motard de Dijon.
En fait, c'est bien dans ce film.
Vu arriver.
C'est qu'à chaque fois qu'il y a un move un peu féministe et tu fais oh, et ben il est cassé dans les 30 secondes qui suivent.
Ça vraiment, ça va être dans les critiques. T'inquiète pas, on va pas la louper.
C'est quoi.
Donc elle commence à discuter avec le motard. Elle le regarde dans ses lunettes. Elle reconnaît pas qui c'est parce qu'il a des lunettes, il a un cuir et il a un casque. Et elle aimerait un peu savoir qui c'est tout ça. Sauf que là, qu'est-ce qu'on entend? On entend la police. Donc le motard doit partir. Il monte sur sa moto, il saute au-dessus d'une voiture de police parce que pourquoi pas?
Parce qu'il est trop chaud.
Et d'ailleurs, le flic questionne clairement sa sexualité à ce moment-là.
Ah, il est en full crush sur le moteur mystère. Hein.
Même regard. Regarde que tu.
Et il disparaît dans la nuit. On ne saura donc pas qui c'est.
D'accord,
on avance.
C'est vraiment beau.
Retour au lycée, on a Michael et Frenchie qui discutent ensemble en cours de chimie. Donc Michael qui est dans sa tenue de petit nerd anglais mais un petit peu moins nerd et un petit peu moins anglais parce qu'il a le col relevé, les manches relevées et les cheveux gominés. Et Frenchie lui dit, il paraît que on a entendu qu'il y avait hier un motard qui a sauvé les T-Birds de la débandade. Est-ce que tu saurais qui c'est par hasard? Et ce à quoi Michael lui répond. Et oui, je sais qui c'est, parce que c'est moi.
Shock face.
Moi, j'étais vraiment choquée, j'ai dû mettre pause au film parce que.
Mais ouais.
Déjà qu'il n'y avait pas de mystère, mais alors là, ils l'ont tué.
Et à ce moment-là, oui, Frenchie lui demande, mais donc, qu'est-ce que tu vas faire et tout. Lui, il lui explique que vraiment, il est trop en crush sur Stéphanie et que la prochaine fois qu'il la voit, bah, il va la flirter avec elle, quoi.
Et lui dire la vérité.
Et lui dire la vérité. Exactement, lui dire c'est moi, le motard de Dijon. Arrive. Arrive le groupe des Pink Ladies et à ce moment-là, Michael n'est pas capable de lui dire la vérité. Il n'y arrive
vraiment
pas.
Vraiment, il se chie dessus. Hein.
Vraiment.
Le seul truc qu'il arrive à faire, c'est à faire une espèce de blague méta en mode « Hey, t'aimes bien Superman ?» Ouais, pour lui dire « Ah, tu sais, l'identité secrète. »
Oui,
je pensais que c'était vraiment pour lui montrer que c'était un nerd.
Non,
je pense qu'il y a double lecture. C'est un nerd et aussi Superman Clark Kent. Donc, il me semble qu'après, on continue un petit peu au lycée avec la simulation d'urgence d'alerte nucléaire.
Ça vient avec le bunker, effectivement. Donc, t'as mon couple lesbienne préféré qui font une simulation d'attaque
nucléaire.
D'ailleurs, c'est toujours la même alerte à l'heure actuelle pour les alertes intrusion. Ouais.
Et elles sont tellement RP qu'il y en a une des deux qui a mis un casque.
Oui,
j'adore ça. Je les aime d'amour, les deux.
Et dans la première scène, pour faire la petite annonce, elle a un petit xylophone, c'est génial. Donc, on a cette annonce de simulation, comme on peut avoir des fausses alertes incendie. Et tous les élèves s'en foutent, littéralement.
Oh là
au
là
moment de l'alerte en fond, etc., on a une scène du coach avec un des T-Birds, honnêtement, je ne sais plus qui c'est, où il explique que quoi qu'il arrive, il faut qu'il continue de jouer. Fin de la scène. Voilà, c'est...
Et en fait, cette seule intérêt de simulation d'attaque nucléaire, c'est pour ensuite arriver à la scène
du bunker.
Du bunker, le bunker donc de Michael, mais qui est vide puisque un des T-Birds l'a réquisitionné pour être avec Sharon.
Il va charo Sharon.
Ah bah là, il va essayer de charo Sharon.
Et il avait prévu absolument tout parce que ses potes, ils ferment la porte pour lui montrer comment c'est fait un bunker parce que c'est vraiment sympa, les petits lits et tout ça. Ses potes derrière sont arrivés avec
l'énorme sirène en fait.
Ouais.
C'est-à-dire qu'ils
très certainement.
Ils font une mise en scène. Louis rentre avec Sharon dans le bunker.
d'un seul coup, la porte se ferme et les potes à l'extérieur font la sirène de bombardement pour faire croire que d'un seul coup, ça y est, c'est l'attaque nucléaire.
S'ensuit donc toute une scène de chansons entre donc Sharon et Louis. Et Louis lui explique que oh là là, c'est la guerre, on va devoir partir au front, on va mourir peut-être, c'est vraiment triste. Donc lui se met dans la peau d'un soldat avec son casque et elle se met dans la peau d'une infirmière.
Et clairement, en fait, il y a ce truc, alors qu'il y a un peu en filigrane dans le film, ce qu'ils le disent deux, trois fois, c'est ok, on va mourir, mais on ne veut pas mourir vierge.
Oui, c'est vrai
on que
c'est.
On ne veut pas mourir puceau.
Mais non, parce que vraiment, l'objectif des T-Birds, c'est de Ken.
Mais il n'y a pas que les T-Birds, hein.
Non, mais le Pink Ladies, voilà, c'est nul d'être puceau.
Ouais. Trop nul, t'es puceau, mais trop nul. Moi, puceau.
Demande à mes potes qui ont une sirène d'alarme nucléaire, parce que je suis puceau.
Et donc, en fait, pendant toute la chanson.
Ça s'appelle Do It For Our Country.
Oui, ouais. C'est ça, c'est-à-dire que oui. Faisons l'amour pour notre pays. Genre
avec ce côté roulement militaire, orchestre symphonique et trucs comme ça.
Il y a une double lecture parce que c'est faisons-le, battons-nous pour notre pays et faisons l'amour pour notre pays. Et donc, il commence à se chauffer, à s'allonger, tout ça. Il y a donc Sharon qui met des petits bandages. Elle bande.
C'est tout bien sonneur.
Fou, il s'allonge. L'un sur l'autre, et au moment où Louis se dit « Yes, ça va être mon moment », il dit « Bon, bah maintenant, on va le faire », ce à quoi Sharon lui répond « Oui, allons nous inscrire sur les listes pour partir à la guerre ». Elle sort du bunker, ouvre la porte, et là, les deux potes avec l'alarme étaient derrière, donc elle se rend compte que tout ça n'était qu'un roleplay.
Une supercherie, une sale blague pour, voilà. Pour se la faire. Hein.
No king shame, cependant. Et voilà, et elle est très vexée, ce que je comprendrais.
Très vexée, mais n'aura aucune conséquence dans le reste de la relation avec les T-Birds ou quoi que ce soit.
Vraiment pas.
Vraiment pas.
Quoi qu'il arrive dans ce film, rien n'a jamais de conséquence, sauf entre Johnny et Stéphanie.
Et encore.
Et ensuite, pendant ce temps-là, Stéphanie a fait quoi ?
Elle fait des petits boulots d'étudiante, hein, parce que bon, ça suffit pas quand même. Elle travaille à une station-service. Pendant qu'elle est en train de bosser, il y a le motard qui arrive, Michael.
Et moi, je trouve qu'il ressemble énormément à Ryan Gosling.
Oui.
Ah ouais.
Oui, il y a vraiment
énormément. Surtout quand il est dans sa moto, il est torse nu. C'est-à-dire qu'il a sa veste en cuir, mais sous sa veste en cuir,
il n'y a absolument rien.
Il est torse nu. Il est super cuss. On voit ses abdos. Il est blond avec le visage fin. Mais c'est Ryan Gosling dans Drive.
Il y a un petit côté. J'y avais pas pensé. C'est vrai qu'il y a un petit côté. Ah non, mais il est beau gosse quand même.
Super beau.
Effectivement, Michael est très beau. Mais moi, j'avais envie de lui donner des claques pendant tout le film.
T'es jaloux, c'est tout. Et donc, Stéphanie est en plein travail et le motard mystérieux lui propose de partir avec elle. Qu'est-ce qu'elle fait ?
Elle y va, elle abandonne son poste, elle abandonne son taf sans aucun problème.
Non mais désolé parce que c'est un rush, c'est montré comme étant oh, c'est le rush ultime. Enfin, si t'as bossé un tout petit peu en restauration, ceci n'est pas
un rush. Oui,
je suis à 4 clients en même temps.
C'est vraiment pas.
Dieu.
Et donc, ils partent pour cette fameuse balade et elle fait des trucs hyper dangereux. Déjà, elle n'a pas de casque et surtout, elle fait un petit roulé où en fait, elle est derrière Michael, donc du coup, serré un petit peu classique. Mais ensuite, elle décide de aller à l'avant devant Michael pendant qu'elle est en train de rouler.
En mode koala.
Koala et t'es en mode waouh, tu n'as peur de rien, meuf.
Tu ne connais pas cette personne.
Et
elle a juste allumé ta clope une fois.
C'est ça. Et tu sais ce qu'on dit.
Bon,
qui allume mon cul.
Insortable.
C'est pas moi, c'est le film. Bref, donc il s'arrête un petit moment pour se rouler une galoche. Je rappelle que Michael a toujours ses lunettes, a toujours son casque.
Le casque stays on your face.
Le casque reste. Donc elle embrasse vraiment un gars où elle ne connaît pas la couleur de ses yeux.
Elle ne connaît pas son prénom.
Devant le soleil couchant.
Ouais, c'est ça, devant le soleil couchant.
Il allume très bien les clopes.
Oui, voilà. Et elle est en mode I'm shivering.
Si je dis pas de conneries. Elle connaît même pas le son de sa voix à
non,
ce moment-là.
Non,
à peine,
en fait.
On est à peu près à 1h10.
Say you wanna ride, un truc comme ça, oui.
Ouais, ça. Il lui a dit une phrase.
Ouais, il a dit une ou deux phrases, clairement. Et ensuite, après cette balade, il retourne à la station-service, il fait nuit, et elle lui décide de lui donner un surnom qui, clairement, avec tous les surnoms qu'on vous a donnés, franchement, celui-ci est clairement pourri puisqu'il s'appelle Mr. Wright.
Ah oui, c'est vrai.
Donc ça sera le surnom de notre moteur mystère, mais il restera le moteur mystère.
Oui, mais en fait, c'est une référence parce que dans le premier Grise, quand il parle de l'homme a trouvé, ils disent Mr. Wright et du coup
c'est une petite ref un peu Nasbrock. Et là en fait Michael commence à aussi à palper pité parce qu'il se dit c'est le moment de lui dire la vérité, de dire qui il est à Stéphanie, quand soudain les T-Birds arrivent avec les Pink Ladies. Johnny voit que voilà, il y a ce motard avec son ex et il pique une grosse crise de jalousie devant tout le monde. Il engueule Steph. Je crois que Michael se casse.
Michael, il s'est fait quand même 15 mecs de 45 ans tout seul. Par contre, 4 adolescents,
flemme.
Trop dur.
Ouais, mais c'est qu'il a envie de devenir un T-Bird, donc il faut pas qu'il s'engueule avec eux aussi.
Et c'est vrai qu'il part. Et juste avant de partir, Steph dit mais quand te reverrai-je, pays merveilleux. Non, quand te reverrai-je, beau blond, beau brun. Elle ne sait pas parce qu'elle n'a pas vu ses cheveux. Quand te reverrai-je, beau casque. Et lui dit ouais au talent show. Ensuite, effectivement, crise de jalousie de Johnny qui mène une crise de jalousie de Paulette. Paulette se casse avec les autres Pink Ladies un peu en furax.
En fait, Paulette n'est pas contente parce qu'elle remarque que Johnny n'est jaloux que vis-à-vis de Stéphanie.
Ah oui, il est pas over it de
et
Stéphanie
que, par
en
contre,
fait.
Paulette, elle peut coucher avec qui elle veut, il s'en fout complètement.
En fait, il s'en fout un petit peu. Et donc, se retrouvent en fait nos quatre Lascars, nos quatre T-Birds, où en fait, bah, ils vont parler un petit peu de leur objectif de vie, globalement, pour cette chanson. Qui est la chanson Prowling, ouais. Où en fait, bah, du coup, ils sont dans les stations-service, dans les parkings et trucs comme ça. Ils chantent un petit rock'n'roll pour dire qu'ils veulent en gros choper de la gonzesse.
Donc ouais, c'est la chanson des mascus.
C'est la chanson des mascus, mais qui, je trouve, encore une fois, est une bonne chanson. Elle est très catchy. Ça, on pourra pas me l'enlever. Je
la petite
très
vibe a cappella des 60.
Ouais, les doo-woop. En fait, c'est le côté doo-woop et we're gonna prowl. Enfin, vraiment, c'est assez sympa. Avec en plus les jeux d'ombre chinoise avec.
C'est super beau, hein, cette scène.
Elle est très chouette.
Et puis ce passage de un décor naturel de la rue à ce truc très comédie musicale avec un faux lampadaire.
Oui.
On se dit, ah, c'est marrant, c'est un petit parti pris intéressant.
Ça fait très Jailhouse Rock avec de l'épopée sauvage aussi, où tout le monde danse, tout le monde chante en fond.
Exactement.
Et d'ailleurs, on se rend compte qu'en fait, ils étaient sur la scène du talent show.
Ouais.
En fait, à la fin.
C'est ça, petit fondu. On comprend qu'en fait, tout ça, c'était une choré. Et qu'ils étaient en train de répéter. Moi, j'aime beaucoup leur choré. Elle me fait beaucoup penser à la choré au tout début de Phantom of the Paradise. Mais je pense qu'en fait, c'est le trope.
C'est le trope des années 50,
ouais,
60.
Ça.
C'est très ça.
Et donc, le lendemain matin, Stéphanie se retrouve en cours de français où la professeure Milflaquet est en train de distribuer les copies. Où, globalement, tous les étudiants sont pas mauvais, sauf Stéphanie, qui apparemment a fait de la giga merde sur son devoir sur Shakespeare et qui se fait donc défoncer devant tout le monde pour ce devoir, qu'elle doit donc refaire en entier. Michael saute sur l'occasion pour faire hey, « Hé, attends, t'es nul, moi je suis doué, viens je te donne un coup de main. »
Je te fais une aide aux devoirs. Clairement,
ouais, clairement, je t'aide à faire les devoirs, on va passer un peu de temps ensemble, on connaît, on a tous fait ça au lycée. Non, je suis tout seul ? Ok, d'accord.
Ça a marché comme technique ou ?
Et pas beaucoup révisé. Et donc, ils sont au diner, où ils sont censés bosser de Shakespeare. Sauf qu'au lieu de bosser, Stéphanie commence à lui expliquer qu'elle est un peu perturbée parce qu'elle a rencontré quelqu'un, mais elle veut pas trop en parler, mais en fait, si, donc elle en parle un petit peu. Et pendant tout ce temps, Michael, il écoute et il est en mode « Oh oui, vas-y, dis-en-moi plus sur ce mystérieux motard. » Et j'ai un petit scoop pour vous. Le motard, c'est Michael.
Mais non.
Et impossible. En fait, le boug, ça fait quand même 5 minutes qu'il écoute en mode « Vas-y, encense-le, vas-y, je prends. »
Fais-moi kiffer.
En vrai, c'est la première scène, on est donc à 1h20 de film, et c'est la première scène où ils interagissent vraiment, où il y a un petit peu de complicité. Ils font un peu mimes.
En vrai, ils continuent un peu de discuter. Le burger arrive. Oui. Elle pète un plomb parce que putain, il y a pas de ketchup dans mon burger. Donc elle veut du burger.
Attends, mais on dit salade iceberg.
Ah, j'ai la rêve. J'étais sûr que t'allais faire ça.
Je l'ai pas.
C'est chroma.
Ah putain, oui. Ok. Et donc ketchup, tout ça. Et en fait, ils commencent à déconner un peu. Ça se dragouille gentiment.
Oui.
Et à un moment, alors en VF, elle dit ah, est-ce que vous pouvez amener un burger à mon petit ami? Oh, j'ai assumé qu'en VO il disait pas petit ami.
Clairement pas.
Parce que j'ai fait
My little friend there.
Ouais, c'est ça, my little friend.
Ça a été genre littéralement traduit little friend en petit ami.
Tu sens que le budget n'est pas vraiment passé sur le doublage.
Ah non, alors oui, non, pardon.
Je vais pas dire que tu es ma petite amie du
coup. Je fais 1m50.
Mais c'est effectivement l'une des rares scènes où il y a un
petit ami de tout le monde ici, hein.
Je suis polyamoureuse.
Un autre podcast. Juste après celui-là.
Attends, j'ai une question que je t'ai pas demandé depuis le début.
Ouais.
Les chansons de
VF, elles sont en VO.
D'accord.
Elles sont en VO.
Parce que la chanson, justement, alors déjà, c'est assez intéressant. Je me demande, dans ce genre de scènes qui sont hyper parlées, comment est-ce que tu fais le passage
Ça se fait bien.
D'accord, ok.
En vrai, parce ça se fait bien.
T'as tout le jeu sur le fait que, genre, ils sont là et discutent de Mr. Right. Et à chaque fois, il dit, mais tu parles de qui? De Mr. Right? Right. Et en fait, il y a ce petit jeu de mots entre
All oh,
Right. Tu
ah, vraiment, à
right.
Aucun moment, il y a ça dans la VF.
Ça m'a fait penser un peu à du Lin-Manuel Miranda.
Voilà. Oui, j'entends tout à fait, mais non, il n'y a pas du tout, sinon je l'aurais relevé. Et par contre, je ne l'ai pas dit, mais dès le début, une des premières choses que je me suis dit, quand ils ont commencé à parler, c'est putain, cette VF est nulle à chier. Voilà.
Mais clairement, c'est l'une des rares scènes un peu touchantes où ils ont un petit peu de complicité. Tiens, tu veux mon burger, tu veux une, tu veux une frite.
Prends mon ketchup.
Elle lui met vraiment genre, le burger sous le nez. Et il dit non.
Genre, non.
Alors attends,
là,
attends.
J'aurais tapé mon meilleur croc là.
Et Michael a en fait des troubles alimentaires depuis le départ.
Oh non, shit. Mais alors, par contre, ce qui m'aime bien, c'est que vraiment, elle lui met le burger et il le regarde vraiment avec un petit. Attends, sa bouche, elle a touché le burger, quoi. Moi, j'ai vraiment ce regard. Je l'ai traduit comme ça.
Genre, ah, on a bu à la même bouteille.
Voilà, c'est soin direct, n'importe quoi.
La complicité commence vraiment au moment où il commence à revoir un peu le truc qu'elle a fait sur Shakespeare. Et puis, il dit, voilà, la phrase, elle est mal dit. Dit plutôt qu'il y a une relation incestueuse.
Ah, ils le disent aussi en VF. D'accord.
Et vraiment, elle est trigger par le « oh, relation incestueuse ».
Non, en fait, elle
est tellement intelligente.
Elle est impressionnée parce que c'est un mot, c'est un big word, genre, c'est genre,
ouais.
Oh là, mot intimidant.
Aux États-Unis, c'est les mots de plus de 3 syllabes, tu vois.
Non, mais clairement, en plus, comme on dirait que le cast a entre 20 et 25 ans, c'est en mode
Non, je crois que c'est parce que le mot est compliqué, en fait. C'est pas
je pense que c'est pour ça. Et c'est pour ça que tous les autres sont débiles. C'est vraiment pour mettre en avant le fait que Michael, lui, il connaît des mots un petit peu plus intelligents.
Parce qu'en en fait, on passe des T-Birds qui ne savent pas épeler le mot dead.
Oui, you're dead to me. D-E-D.
Il y a un truc, en fait, culturel qui fait que nous, en tant que Français, on n'est pas impressionnés par les Anglais. Mais par contre, pour les Américains, les Anglais, c'est un peu des mecs un peu nobles, super,
ouais, c'est vrai.
Super intello et tout, juste parce qu'ils sont anglais. Alors que nous, on n'est pas du tout impressionnés par ça.
Parce qu'ils bouffent de la merde et qu'ils ont été mis sur une île. Comme on est trop violent, on vous adore les Anglais.
Et donc il se dragouille un petit peu, il fait vas-y, je retente ma chance. C'est pour ça que je dis que c'est un forceur. Ça. Il fait encore une fois,
raison, écoute. S'il sent que d'un seul coup la température se réchauffe et qu'elle
là, pour le coup, s'il y a une scène où
pas,
il peut un petit peu demander, c'est celle-là. Tu
vois,
oui, c'est intéressant.
Ok, j'entends. Bon, il leur demande, elle lui redit non. Comme d'hab, finalement. Et c'est plus ou moins à ce moment-là que plan sur les T-Birds qui arrive en disant « Eh, on va dans un endroit. » Donc, c'est y a que Johnny et Goose, je crois.
C'est ça.
Et Johnny qui dit à Goose « On va dans un coin. » Les meufs, elles sont chaudes. Bah, ils arrivent, bon. Ils tombent sur...
Bah ouais, Steph et Michael qui sortent du resto, en fait.
Voilà. Genre, à quel moment un dinner, c'est un drôle, les meufs sont chauds. Ouais, non.
Dans les années 60, peut-être
ils ont fait toute une chanson avant en disant que c'est genre l'épicerie où les meufs sont chaudes. Donc, je pense que dès qu'il y a une meuf quelque part,
c'est
chaud.
Ok, ça me va.
Surtout si Amy.
Quand ils vont découvrir Hooters plus tard dans la vie, ça va être pas
cool. Et du coup.
Johnny arrive
et il dit à Stéphanie, faut que je te parle.
Ah bah encore une scène où Johnny est jaloux.
Mais surtout, il lui dit, j'ai décidé qu'on allait rompre, que c'est fini entre nous. Et je, oui, enfin ça fait une heure et demie que c'est le cas.
Ouais, en fait, il a ce truc. En fait, c'est pas toi qui me largue, c'est moi qui te largue, c'est moi qui aura le dernier mot.
Et justement, et il le dit juste après à Goose, il dit, que ça soit bien clair pour tout le monde, c'est ma décision, c'est pas la sienne. Et après, il tape dans un truc parce qu'il est énervé.
Et Goose fait pareil
parce qu'il est teubé. La masculinité est toxique, wouh.
Mais voilà. Non, mais c'est que Goose, il est amoureux de Johnny depuis le début et que du coup, il est copie dans tous ses faits et gestes.
C'est vrai qu'il y a ça, j'aime beaucoup
cette lecture.
Moi je trouve que c'est vraiment la dynamique d'Alton, ouais. Joe et Avril.
Mais en fait ils le font tous. À chaque fois qu'il fait un truc, ils le font tous juste après.
Mais surtout Goose.
Il s'appelle Avril Goose.
Avril.
Il s'appelle Joe ni Avril Goose.
Pardon. Si les gens ont compris, c'est le mien.
Est-ce qu'il y a un truc à comprendre?
Joe et Avril, c'est juste qu'il s'appelle Johnny. Bof, non, il n'y a rien à comprendre.
Non, moi je la trouve très bien. Je la trouve très bien. Moi je valide, je la trouve excellente.
Polyamoureuse 1m50.
Alors, donc du coup, Michael se barre et après, scène d'un teen movie américain de base, ils sont au réfectoire. Comment commence cette scène? Bon, c'est la queue dans le réfectoire. Et vraiment, tu vois, il y a Stéphanie qui est juste derrière Michael, qui se fait bousculer. Et Michael se retourne et voit que c'est Stéphanie. Et il y a vraiment 20 secondes où il la fixe, la bouche entrouverte en mode... Le gars, il a un arrêt cérébral parce qu'il voit une meuf. Et c'est vraiment un lycéen. Hein.
Après, je me demande si c'est pas pour être raccord avec la chanson au niveau du rythme et trucs comme ça.
Oui, parce qu'en fait, une chanson extrêmement lente, extrêmement chiante.
Alors ouais, celle-là, Cool Rider, je l'ai mis x3, celle-là, je l'ai mis x5. Hein.
Ah bah, tu sais quoi, elle reste encore chiante. Hein.
Ah, je confirme.
C'est la première chanson de Michael.
Et c'est... Ah oui.
C'est la première chanson. Alors, il chante un peu dans Who's That Guy, très vite fait, où il a 2-3 lignes. Mais là, c'est la première vraie chanson solo de Michael.
Et on peut dire que dans cette chanson, il se passe pas grand-chose. Ce truc, c'est que Michael est en train de déprimer Michael.
Oui, il est triste parce que...
Parce qu'elle aime pas le vrai lui.
Voilà, elle aime pas le vrai lui.
Mais donc... est-ce que le réalisateur de ce film, il aimait pas l'acteur? Parce que vraiment, j'ai l'impression qu'il le tourne en ridicule. Ouais. Genre vraiment, l'acteur, hein, pas le personnage. J'ai l'impression que l'acteur... Ils veulent le...
Bah, pourtant, il était vraiment adoré au casting. Il a vraiment... Enfin, il y avait énormément de gens qui avaient auditionné pour son rôle. Et lui, ils étaient là en mode, putain, t'es le prochain Travolta, mec, let's go.
Ah ouais.
Il ne l'a pas du tout bien traité dans son film.
Mais non, mais clairement.
Et du coup, donc lui, il commence à vraiment déprimer dans son coin. Et de son côté, tout n'est pas rose non plus pour Stéphanie, qui a l'air de se poser des questions. Et
au moment où elle mange un sandwich toute seule sur le parking.
Ouais, en regardant autour d'elle et en mode...
Bah, elle questionne sa vie, sa loyauté avec les Pink Ladies, tout ça, crise existentielle.
Son sandwich.
Ouais, mais c'est ça, c'est vraiment pour moi ce passage. J'étais en mode, putain, mais c'est une fanfic de Grise, en fait. Mm. Ils ont pris une fanfic, ils ont dit, ouais, c'est bon, fais un film.
C'est carrément le mood fanfic de Grise.
Oui. Et du coup, après, on arrive enfin au fameux concours de chant où Stéphanie devait retrouver le fameux motard.
C'est le soir donc du talent show, le fameux fin d'année. Tout le monde est super chaud, tout le lycée est là. Et on a Jean-Michel Mottermeister,
Zorro.
Et on a Zorro qui arrive, qui passe devant les T-Birds. Et là, les T-Birds, ils disent non, 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 pas ce soir. Et donc, il le pourchasse en moto. On a une course-poursuite. Là, je suis d'accord avec toi, Eric, parce que je pense que tu l'as trouvé ridicule. Et oui, c'est ridicule.
C'est un peu mou. La course-poursuite, c'est un peu mal.
C'est vraiment, il n'y a aucun enjeu. Alors que tu sens que c'est un petit climax du film, quand même, parce qu'il va se passer un truc important, mais c'est Osef. Donc, on a le motard, enfin, du coup, on a Michael Motard qui part, les T-Birds qui suivent, les Pink Ladies qui sont en voiture, qui le suivent aussi, tout le monde le suit, moto, 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 moto,
voiture.
Il y a une phrase qui est drôle quand même, c'est une des Pink Ladies qui dit « Je ne veux pas mourir dans les sous-vêtements de ma mère ». Ça, c'est quand même un peu drôle.
Bah oui, parce que la course-poursuite est tellement intense, vous comprenez. Et là, oh mon Dieu, il y a des travaux sur la route et il y a un trou et le biker, il disparaît.
Non, attends, moi ce que j'aime beaucoup, c'est quand il y a 15 barrières avec écrit ne passez pas par là.
Dead stop, inside.
Il y a apparemment la mort. Un trou, arrêtez-vous. Et t'as l'impression de regarder un carton
en même
genre
temps,
de Bibi et Coyote.
Je sais pas si t'as remarqué, mais dans toutes les barrières, il les fait en roue arrière. Donc c'est oui, normal, c'est il voit pas les panneaux.
C'est vrai, il est trop haut.
On se comme un taré, il y a un énorme trou. Mais avant le trou, il y a une espèce de gros tas. Et en fait, on voit la moto qui va utiliser ce tas de terre comme un tremplin qui va s'envoler. Et donc, Michael disparaît sur sa moto dans
la nuit.
Il disparaît du champ même. Non, on peut dire vraiment, il disparaît de la caméra.
il disparaît du champ et t'as tous les autres qui s'arrêtent en mode putain merde, qu'est-ce qui se passe? Et on a une super line prononcée par je ne sais plus qui est Where did he go? Biker heaven.
Je pense que c'est Johnny qui l'a dit.
Sûrement, bon, bah lui il est content hein, parce que concrètement s'il est crevé, c'est plus.
Ça veut dire que son concurrent est mort, etc.
Ouais. Et d'ailleurs, Stéphanie est ravie d'ailleurs.
Pour tout le monde, le biker mystérieux est mort.
Et voilà, et sauf que bah il y a quand même le talent show au même moment, donc du coup bah tout le monde se remet de ses émotions parce que bah ils s'en battent les couilles, sauf Stéphanie, bah qui est quand même super triste quoi.
Ouais, elle est un peu chafouin.
Et donc nous revenons au récital où Paulette donc va jouer le Girls for All Season, où elle va jouer comme saison l'été, donc forcément elle va être un petit peu dévêtue sur scène, et ce qui rend fou de jalousie Johnny, qui limite lui interdit d'aller chanter jouer sur scène dans cette tenue. Et Paulette donc du coup qui porte un petit peu le truc, elle dit non écoute Johnny, bah je fais ce que je veux, je suis libre, donc va chier. Donc elle envoie bouler Johnny.
Ils arrivent sur scène et genre ils cassent la performance absolument incroyable de la personne qui était juste avant.
Bah ça d'un autre étudiant qui avait l'air qui était je suis sûr qu'il allait gagner. Il était sûr qu'il allait gagner.
Et elle dit un truc que je trouve assez cool, c'est ouais peut-être que je suis pas la meuf la plus distinguée, mais en même temps je suis la seule que t'as réussi à te trouver, donc tu me prends comme ça ou tu te retrouves célibataire mec.
Boum. Boum, Paulette, bien joué. Et scène d'après, nous avons les T-Birds qui vont pas tarder à du coup faire leur chanson Prowling. Sauf que il y a clairement un concurrent qui sont les trois de Mr. Sandman qui chantent super bien, et ils décident en fait de les attacher, de racketter leur veste rose, et ensuite ils vont chanter Prowling
avec la veste rose
des trois boogs.
On vous attache dans les toilettes et on pique vos vêtements et on chante avec.
Et on chante avec. Ils allument la douche sur eux aussi.
Et ils allument la douche sur eux.
Total.
Et le truc, c'est que bah, ça a l'air de plutôt bien marcher. En plus, c'est que
c'était la veste qui faisait tout.
Tout est dans la veste. Et après la performance des T-Birds, nous arrivons sur la performance donc des Pink Ladies.
Et les Pink Ladies vont donc chanter la chanson qu'on a entendue plus tôt dans le film, qui servait un petit peu de musique de fond, Girls for a Season, avec donc toutes les films qui ont plein de costumes différents.
Incroyable.
C'est vraiment pas
elles
mal.
Se sont fait chier.
Il y a beaucoup d'efforts quoi.
Oui.
C'est très long, ça je te l'accorde.
J'ai une question pour les costumes. Vu tous les costumes qu'ils ont et vu toute la thune qu'ils ont mis dedans. Est-ce qu'ils n'auraient pas pu commencer par juste acheter les albums avec cette thune?
Non, mais c'est comme dans Sex Education, quand ils montent un spectacle, curieusement, ouais, ça ressemble à un truc d'Hollywood, alors que toi, au lycée, ça ressemble à toi, ça. Oui, voilà, c'est ça.
Ouais, je vois, ok, d'accord.
Ah bon, on va pas demander à ce que ce
soit. Non, bah, après, il faut dire que les arts créatifs, normalement, dans les lycées américains, même si dans Glee, c'est tout un débat de où est-ce qu'on met le budget, il y a du budget. Ouais. Donc, je pense quand même qu'il y a un petit truc comme ça.
Mais leurs costumes, genre, ne serait-ce que d'un point de vue design, même s'ils ont du fric, leurs costumes sont incroyables.
Franchement, il y a
l'automne. Et même, enfin, tout en fait. Il y en a une dans cette espèce de coupe là avec les jambes qui
dépassent. Oui, oui, on dirait qu'effectivement, c'est très joli.
Au-delà des costumes, je suis seul à pouvoir trouver que c'était incroyablement long comme
c'était,
ça.
C'était une chanson très très longue, mais d'autant plus longue qu'en fait, t'as Stéphanie qui est totalement en PTSD de ce qui vient de se passer et qui regarde dans le vide. Elle est pas bien, elle pense à son mec mort, tout ça.
Pendant la saison de l'hiver. Parce qu'elle est déguisée en jolie sapane de Noël avec une belle étoile. Quelle étoile d'ailleurs.
Et donc, on a une sorte de. Je sais même plus si ça passe direct d'une chanson à une autre, là pour le coup, j'ai un petit doute. Mais
non,
donc,
ouais, directement.
Ça passe directement. Il y a juste deux, trois phrases en mode. Oh, Stéphanie.
Elle va chanter sa chanson. Sa chanson qui serait l'équivalent d'un Hopelessly Devoted to You, mais en nul, mais genre en vraiment très nul. Donc c'est Love Will Turn Back, The Hand of Time. Et en fait, on a un vieux montage dégueulasse du biker mystère. Ouais,
on rentre dans la tête de Stéphanie qui rêve voilà, de cimetière de moto.
Et plus jamais je rentrerai dans sa tête. Hein. Jamais.
Pour ceux qui voient un clip d'Érasure, c'est un peu.
Un peu.
De fou. Et c'est chiant. Et en plus. Toi, d'un point de vue spectateur, t'es là en mode votre histoire d'amour, elle est pas non plus si folle que ça.
Puis on sait très bien qu'il est pas mort.
Oui, puis tu connais même pas son nom en fait. Hein, voilà, vraiment,
c'est nul. C'est
et
nul,
il chante mal.
Oui. Mais...
ah, genre, mais vraiment, il est tourné en ridicule. Mais je sais pas si c'est fait exprès, je sais pas s'ils se sont rendus compte à quel point ce personnage était tourné en ridicule.
C'est compliqué.
J'ai une petite question sur le chant. On est d'accord que à chaque fois, c'est Mickaël qui fait le piano.
Oui,
bah, oui,
je
oui,
me suis posé
oui,
la question.
Justement.
Voilà.
Justement,
du coup, est-ce qu'on peut parler du fait que c'est lui qui joue le piano?
Non, non, mais
il est pas là.
Je l'ai noté aussi. Je voulais en parler. Et c'est vrai, genre, Michael n'est pas là. Et il vous manque pas un pianiste, non? Ou
tous les instruments.
Un élève pour la suite du film, en fait. Mais...
Ah non, mais c'est vraiment. En fait, le film.
Non, mais ça, à la rigueur, il est mort il y a 5 minutes.
Mais en fait, c'est marrant parce que là, on pourrait vraiment dire, ouah, c'est fou, on les a jamais vus dans la même pièce. Oui, dès qu'il y en a un qui disparaît, l'autre aussi. Mais un effort.
Donc le récital enfin est terminé. Qui a gagné le récital?
Donc les T-Birds au niveau des mecs ont gagné le récital, ils sont trop contents, trop chauds, et c'est les Pink Ladies, enfin entre autres Stéphanie qui gagne.
Et donc on a un roi et une reine.
Le roi et la reine de la soirée, donc Johnny et Stéphanie, elle est absolument ravie, vraiment.
Non, mais elle est
vraiment triste là, à partir de là, elle est une caractère, elle est triste pendant 20 minutes.
Ouais. Alors moi j'ai pas compris pourquoi elle était sélectionnée. Quoi.
Non, mais frère, elle a volé le show de ses copines.
Oui, c'est bon.
Elle a vraiment volé le show de ses copines. Moi je.
Surtout qu'en plus, la chanson qui est dans sa tête, en fait, elle le chante.
Personne ne l'entend.
Vrai. Mais si, enfin... à la fin, t'as un pas sur le pet qu'en fait, elle chante tout ce qu'elle a dans sa tête.
Elle a des larmes et tout, et t'as toutes les autres à côté qui attendent. Et
genre, quoi? Et après, tout le monde se lève et applaudit, genre, ouais, trop bien et tout, alors qu'elle chante le fait que son... Que...
Et déjà que le film n'a pas beaucoup de sens à ce niveau-là, et là, gros cut, Hawaï.
Ah, yes.
Parce qu'en fait, le bal de fin d'année, apparemment, c'était thème Hawaï. Personne n'en a parlé jusqu'ici.
Ah. Mais si, un petit peu avant, ils disent genre, il y a deux choses, il y a le talent show et il y a le Luna ou la...
Oh là là, c'est vraiment filigrane alors. Hein.
Oui. J'ai pas bien compris du coup, c'est un camp d'été, c'est un récital, c'est quoi?
Non, c'est leur soirée.
C'est leur...
Ah ouais, c'est leur soirée.
Tu regardes bien, on est dans le stade là où ils se sont entraînés en fait.
En fait, c'est pas genre intradigétique le fait qu'ils dansent, c'est genre, c'est trop bien, c'est une danse de comédie musicale.
Non mais c'est l'endroit en fait, moi c'est l'emplacement. En fait, ça se voit tellement que c'est un studio que j'ai pas compris s'ils étaient censés être...
Ah oui, c'est l'arrière-cour. Pour moi, c'est vraiment le stade, effectivement. Là.
D'accord.
C'est le stade du lycée.
Ok. Et... une petite piscine.
Ouais, oui, oui. Suffit chier à installer le truc. Et puis surtout, au niveau du cut, c'est très bizarre. T'as l'impression que c'est soit dans la même journée, soit le lendemain.
Et je crois que c'est le lendemain.
C'est le lendemain. Mais l'année est déjà finie.
Elle finit.
C'est comme Harry Potter, le truc.
Oui, alors.
Parce qu'en plus, ils chantent plus ou moins à cause de ça en disant l'année est finie, etc.
C'est summer.
Ils terminent le concours en disant on se retrouve demain pour la soirée. Mais oui, non, mais l'année. C'est-à-dire qu'on note quand même que le mec, ça fait un an qu'il veut pécho Stéphanie.
Ça fait un an qu'il fait du ride.
Et ça fait un an qu'il galère.
Et après, en vrai, en un an, il a mieux réussi à gérer sa moto que gérer sa meuf.
Vroom vroom, les rageux.
Donc, on a droit à une grosse chanson façon un peu
ambiance polynésienne, mais façon
Hawaï.
Rock'n'roll Hawaï.
Ouais, bon, Hawaï Ketchup quand même.
Ouais. Alors, ah, oui,
pour, ceux, pour ceux qui ont vu High School Musical 2, je trouve que ça fait vraiment penser à cette scène où c'est exactement la même scène, mais c'est vraiment encore plus cringe parce qu'elle est toute seule, la nana. Mais c'est...
Personnellement, c'était la 10e chanson du film et j'en pouvais plus, quoi.
Et donc, du coup, bah, on voit un petit peu tous les personnages qu'on a croisés pendant le film. On a Mr. Stewart.
Il y a même le prof qui a fait l'overdose au début.
On a le. Oui, c'est ça. On voit effectivement Stéphanie qui tient la tronche, bah parce que son moteur mystère est mort, elle ne s'en remettra jamais. Et en plus, elle doit être la reine de soirée, enfin la reine du bal avec son ex Johnny.
Bah, y a un énorme trône qui arrive sur lequel ils sont tous les deux superbement habillés et portés par des gens. Donc ils arrivent, on les pose directement dans la piscine. Je trouve absolument génial. Je vois pas l'intérêt de faire ça, mais c'est absolument génial, c'est incroyable.
Les piscines, faut bien l'utiliser.
On a mis, oui, mais pour mettre le trône dessus. Donc après, ils sont bloqués dessus.
Ah, c'est fait, génial.
C'est incroyable. Oh, et donc,
un trône géant qui flotte au milieu de la piscine.
Ouais, ouais. Voilà, c'est mais vraiment du pur génie. Elle, elle est trop vénère. T'as Johnny. Bah, lui, il est content parce que c'est le roi et c'est la reine. Il dit peut-être qu'il y a moyen à tout moment. Mais la fête se fait arrêter parce qu'il y a le gang des méchants qui débarque.
Le gang des méchants motards, mon Dieu!
Petite pensée avant à Monsieur Spears qui rentre dans la piscine et qui descend et qui se
overdose et qui se noie, ouais, clairement.
Et donc bref, après la noyade de Monsieur Spears, fou, l'arrivée du gang des méchants, qui franchement cette scène a dû être tellement incroyable à tourner. Tu as des gens en moto qui détruisent tout le décor.
C'est-à-dire ça... ils font que des trucs de méchants avec leurs méchantes motos de vilains.
Même leurs motos, elles font vroom vroom mais en méchant.
Mais en méchant vroom vroom.
C'est la renverse des chaises.
Ils écrasent pas mal de choses. En vrai, ça a dû être vraiment une scène qui a été tournée en fin de tournage, ouais, pour pouvoir vraiment
pour
tout détruire
le décor.
Et ça a dû être super kiffant
et du
à
coup,
tourner.
C'est la panique. Il y a les profs qui crient, il y a les élèves qui hurlent. Mais du coup, est-ce que tout espoir est perdu?
Peut-être, peut-être pas, parce que débarque.
Qui débarque, Léa?
Super motard.
Il arrive d'où?
Il arrive d'où? Il arrive du ciel.
Il est littéralement posé sur le petit cabanon de l'hôtel.
Toi, c'est-à-dire que littéralement, il apparaît sur le toit d'une maison.
Superman.
Sans moto. Et qu'est-ce qu'il fait? Il saute du toit au ralenti. Il saute du toit de 4 mètres.
Sur sa moto. Et ensuite, il passe avec sa moto au-dessus de sa piscine. Et comme les motards, ils disent « Ouais, vas-y, on va le poursuivre. » Au lieu de faire le tour de la piscine qui fait vraiment 3 mètres de long, ils décident de sauter aussi au-dessus de la piscine. Donc, ils arrivent dans la piscine.
Et plouf le motard.
Il y a Stéphanie et Johnny qui essayent de ramer pour sortir de la piscine. Oui. Tant bien que mal. Enfin, gros chaos. On a deux motards qui se noient. Un qui s'arrête, qui fait tomber sa moto. Une fois qu'il n'a plus de moto, il perd tous ses pouvoirs. Et donc, ils se battent contre Michael et ils perdent... Comment est-ce que...
Belmudo, le grand méchant.
Belmudo, ouais. Oui, ils décident de se battre contre Michael.
En fait, il est à côté de la piscine et il y a les pom-pom girls qui lui sautent dessus. Ah oui, c'est les deux meufs jumelles, je les appelle,
ouais,
les pom-pom girls tout le film parce que...
Bon, ouais, bah c'est globalement ça.
C'est les pom-pom girls. C'est les Shining, mais elles ont grandi et...
C'est juste deux très bonnes danseuses qu'on voit souvent parce qu'elles dansent très bien et elles ont même pas de prénom.
Et il faut rentabiliser.
Ouais. C'est exactement ça. Et donc, ils le pousse dans la piscine et apparemment, comme tous les motards de 45 ans, quand tu tombes dans l'eau, t'es mort.
C'est fini.
Il y a trois mecs qui tombent dans l'eau et comme ils sont tombés dans l'eau,
c'est bon.
Ils disparaissent.
Oui, c'est ça. À la base, ils étaient 22 hein, qui sont arrivés.
Il n'y a même pas un plan où tu les vois un peu qui s'enfuient en étant tout mouillés. Non, ils tournent dans la piscine et ils disparaissent du film.
C'est un beat démol à la Double Dragon, en fait. C'est les vieux jeux où du coup, s'ils tombent de leur moto, c'est... Ils disparaissent en mode sprite.
J'adore le principe que la piscine, clairement, même Léa, 1m50, à pied dedans, mais hors des motards.
Polyamoureuse.
Merci. Mais les motards, ils tombent dedans, ils ont pied. Oh, ils meurent quand même.
Mais un seul motard reste. Et bien entendu, c'est le motard mystérieux.
Oh, et oui, et ce qu'il a gagné. Et il enlève ses lunettes.
Et tu sais.
Et bah oui, c'est Michael, vous avez deviné. Et tout le monde est choc-barre de l'info. Même Monsieur Spears, il s'effondre sur lui-même. Et Stéphanie est choquée, mais un peu contente. Mais Johnny, lui, par contre, n'est pas du tout content. Et il arrive, et globalement, tu sens qu'il veut lui péter la gueule.
Le motard lui montonnait.
Oh,
c'est oui. Et Stéphanie l'arrête, et en fait, même ses potes lui disent « Bon frérot, t'arrêtes, t'es relou, tu gardes ta jalousie pour toi, et voilà. » Et il fait « Ok, dans ce cas, donnez-moi un blouson. » Et il l'offre à Michael, j'ai toujours pas compris.
Bah, en fait,
mais c'est la symbolique, c'est pour dire « Viens, on arrête de se battre, c'est bon, là, t'as gagné ta place. »
Ouais, okay.
On fait partie du gang, tu fais partie du gang.
Ouais, mais le revirement, j'ai fait « Ah ouais, rapide, tu remets la nuit. »
Ah oui,
il y a deux secondes, t'as eu le sang dans la gueule.
Le film, il est réglé en 2 secondes.
Ah ouais, voilà.
Qui rappelle d'ailleurs, enfin vraiment, la fin du premier, en mode le nerd. entre guillemets, donc, devient le bad boy.
Et donc, il offre le blouson à Michael, qui devient donc un T-Bird. Mais attends, c'est pas le truc qu'il disait au début, où genre, bah, en fait, si tu veux pécho une Pink Lady, faut que tu sois un T-Bird.
Mais maintenant, c'est
mais
un
coup,
T-Bird.
Mais c'est bon, ça fonctionne.
Il a la capacité physique de rouler une galoche.
Oh, exactement. Et
il
du coup, il se pécho.
Avec Stéphanie, hein, pas
oui, voilà, pas avec
Stéphanie. J'aurais adoré, non, il se pécho effectivement avec Stéphanie.
D'ailleurs, j'aimerais qu'on insiste sur le fait qu'il y a vraiment 10 secondes de silence sur le roulage de pelle.
Le baiser le plus...
C'est un peu gênant. C'est un peu gênant, je trouve.
Pour ajouter, en gênant, on fasse tous des bruits de boules dans le micro.
Petit moment pour les... comment on appelle ça?
Les misophiles.
Les misophones. Voilà, petit big up aux misophones qui écoutent ça.
Et elle lui dit, mais t'es pas déçu. Je crois qu'il lui demande, mais tu n'es pas déçu.
Et elle dit, non, mais je te veux toi, tes deux personnalités.
Ouais,
oui,
c'est
elle
ça,
dit, j'en ai deux pour le prix d'un.
Deux pour deux, ouais, voilà.
Ça, j'en ai deux pour le prix d'un.
Voilà.
On a un autre problème qui arrive, puisque nous avons Dolores qui arrive.
13 ans.
Et qui, oui. 13 ans, et qui est en mode, mais tu sais quoi, Michael, en fait, j'ai plus besoin de toi. En fait, j'ai trouvé un autre gars.
De 24 ans.
C'est ça, qui est le plus petit des T-Birds. Et en fait, globalement, ouais, elle a pécho une nana de 13 ans. C'est ça. Et il y a...
Le truc, c'est que les âges sont jamais trop...
Oui, du coup, on a...
Moi, j'avais compris que, genre, le T-Bird, il était censé avoir peut-être 19 ans, et elle, 15 ans, c'est un peu limite, mais 15-16 ans...
Ça n'est pas légal. Ça n'est pas légal.
Mais canoniquement...
Nécessaire. Et surtout, était-ce nécessaire?
C'est la fin de la comédie romantique, où le truc, c'est que tous les couples se sont refaits.
Ouais.
Et donc, t'as Stéphanie et Michael, c'est le couple principal qu'on attendait depuis le début. Il y a Johnny et Paulette qui sont vraiment ensemble, et vraiment, Johnny...
Oui, ils changent pour elle.
Johnny a accepté Paulette telle qu'elle est, etc. Ces trucs qui se passent bien.
T'as Louis et Sharon, du
voilà,
coup.
Voilà, qui sont vraiment ensemble. Ok, j'accepte que pour le moment tu veuilles pas coucher, mais j'accepte qu'on soit vraiment ensemble.
Stuart et Emile Flaquet.
Voilà, Stuart.
Et oui, ça,
mais ça fait l'intrigue, elle est pas terminée.
Ils sont enfin plus chauds.
Et il y a aussi, bah, du coup, Dolores avec ce mec qui est plus âgé. Ouais, on sait pas exactement la différence d'âge, mais ouais, ouais. En 2025.
Juste à ce moment-là, quand on a vu que tous les couples finissaient bien ensemble, je me suis posé une question simple. Vous vous souvenez de Frenchie?
Frenchie a disparu. Bah, la scène du labo, justement, où il parle de Superman, tout ça, nanan.
C'est sa dernière scène. Donc, du coup, tout ce truc d'embrassade de slow, ça se fait sur la chanson We'll Be Together, qui est aussitôt écoutée, aussitôt oubliée. Nos élèves préférés, bien sûr, reçoivent leur diplôme. Il y a un générique hyper moche de mi-freeze frame, mi-collage.
Et une scène absolument incroyable où ils jettent tous leurs chapeaux universitaires.
Ouais, le classique.
Scène en mode, ouais.
Et quand le film a compris que la chanson We'll Be Together était nulle à chier, quand le générique démarre, on remet la meilleure, c'est-à-dire Back to School Again, et c'est la fin de Grease 2.
Ouh,
enfin.
Voilà les gens, c'était donc Grease 2. Donc maintenant, le principe du podcast, c'est qu'on va d'abord échanger et ensuite on va décider de voter pour savoir si on sauve Grease 2 du naufrage dans lequel il est tombé. Alors, petite discussion. Je sais pas, Izzy, qu'est-ce que vous avez pensé du film?
Quand on a proposé Grease 2, je ne savais pas qu'il existait. Et en le voyant, j'ai compris pourquoi je ne savais pas qu'il existait. Parce que tout est bof et il est vraiment un peu nul. J'ai adoré.
Moi, j'ai trouvé que c'est pas complètement honteux. C'est-à-dire que oui, il y a du un budget, peu. Oui, il y a du... Il y a quand même, de la compétence au niveau des chorégraphies. Mais je trouve qu'il n'y a aucune chanson qui me sont restées. Alors que les chansons de Grease 1, c'est des trucs qu'on a tous plus ou moins grandi avec. Ça passe en boucle sur Nostalgie dans les supermarchés. Enfin, vraiment, il y a plein de chansons qui sont devenues mythiques. Même des extraits de Grease que de temps en temps, parfois, je vais regarder sur YouTube, etc.
Ah, qu'on retrouve dans des Reels Insta. Ouais, Devoted to You. On l'a retrouvé sur des Reels Insta TikTok.
Et ouais, ils étaient tous trop beaux, ils étaient tous trop cool. Et ça marche tellement pas dans celui-là, c'est juste la suite qui est inutile, c'est même pas que c'est vraiment complètement nul, c'est juste pourquoi.
T'as dit c'est pas honteux, bah si, c'est honteux d'avoir mis autant de budget pour ça quand même.
Autant de budget, non, je suis pas d'accord. En fait, le budget de Grease 1 était très très faible. Ouais. Le budget de Grease 2 est plus haut, certes, il est deux fois plus haut d'ailleurs, mais c'est pas énorme.
Il y a aussi un truc, c'est que le couple principal, il n'y a aucune alchimie entre les deux. Alors, ça vient de l'écriture, mais ça vient aussi des acteurs. C'est-à-dire que Michelle Pfeiffer, je trouve que j'adore l'actrice. Hein.
Ah non, mais elle est mauvaise en film.
Mais dans ce film-là, elle danse pas bien, elle a pas envie d'être là. Je pense qu'elle est
pas fait pour ce genre de production, trop grosse production. Alors je sais qu'elle a joué dans Batman, mais c'était un peu un film.
Ah, 10 ans plus tard. Enfin,
c'est un peu. Scarface, c'était l'année d'après.
Ouais, enfin, Scarface, c'est
son premier rôle au cinéma.
C'est un peu des films d'auteur. Là, ouais. On sent qu'elle est dans un truc pur chewing-gum et que vraiment, c'est pas son truc. Quoi.
Bah, de mon côté, j'ai un avis assez nuancé dans le sens où franchement, je me suis fait chier la première fois que je l'ai regardé. C'est long, c'est chiant. Mais dans l'objectif de ce podcast, je l'ai regardé plusieurs fois en plusieurs jours. Petit à petit, je me suis rendu compte que tout ce qu'on reproche à ce film, on peut le reprocher au premier simplement, bah en fait il y a pas les têtes d'affiche, et donc il y a pas les bonnes chansons, il y a pas ce côté catchy là, et c'est un gros point manquant. Mais en fait tout ce qu'on aime de Grease 1, on peut l'aimer dans Grease 2 si on y met un peu de bonne foi.
En même temps, au niveau des têtes d'affiche, en gros méchant, en gros biker, tu passes de John Travolta à Patrick Bruel.
Ouais, mais le mec, ça aurait pu marcher. Moi, je trouve qu'il est.
Non, il était bon. Hein.
Non, il est sympa, mais vu
Johnny,
qu'il est tout seul,
Johnny,
ça ne marche pas.
Mal. Ouais. Moi, pour Grease 2, en fait, j'avoue, j'y allais un petit peu comme ça, par curiosité pour le podcast et juste pour voir le film. J'avoue que dès le début, moi, j'étais hook parce que la chanson.
La scène d'intro est dingue.
La chanson d'intro, moi, elle m'a tout de suite. Prix, il y a du budget, il y a de la couleur. J'ai tout de suite retrouvé l'idée un peu chewing-gum justement du premier. Ça a continué plutôt bien avec les scènes de bowling, les scènes de biker, tout le kitschissime qu'on a, tout le problème. Et en fait, le film, pour moi, il commence à descendre petit à petit quand on se rend compte que Michelle Pfeiffer, sa voix, elle est pas dingue. Elle chante pas mal,
non,
mais
elle
sa voix.
Non, elle chante pas bien,
il y a rien de fou. La romance entre les deux personnages ne marche pas. Les deux ne savent pas chanter et c'est encore plus flagrant quand tous les autres personnages secondaires
jamais une seule chanson
savent chanter.
Même à la fin.
Ouais, bah.
Non, ils ont rien.
Il n'y a pas d'alchimie.
C'est une comédie romantique. Les deux personnages principaux n'ont pas une seule chanson.
Voilà. Et c'est encore plus flagrant quand tous les personnages secondaires savent super bien chanter, je trouve.
Ils ratent le Bechdel test.
C'est ça.
Balle.
Pour moi, en fait, le film, je l'ai un peu décroché à partir de la fausse mort de Michael, où j'ai l'impression que tout s'emballe. Vraiment, c'est en mode qu'est-ce qui se passe, la résolution du concours de talent, elle est aussitôt expliquée, tout est hyper bâclé. Le truc d'Hawaï, j'étais en mode mais qu'est-ce qui se passe,
ça tombe comme un cheveu sur la
tête. C'est ça, t'es là en mode mais qu'est-ce qui se passe, le film, t'as envie de le prendre par l'épaule, je dis mais t'es bourré.
Non, mais le film est très très long, mais je crois que c'était le cas de Grease 1 qui était déjà assez long. Le film est très long et donc en fait ils sont obligés d'expédier parce qu'ils ont mis de l'installation, de la mise en place pendant 8 heures.
Et c'est comme
et là,
ce que disait Léa,
comme ce que disait Léa,
il y a beaucoup de mises en place de plein de personnages,
et pas de payoff.
Très peu.
Et tu comprends pas pourquoi est-ce qu'ils mettent. Tu dis ça va y avoir une résolution derrière par rapport à.
Et moi, ça sent les réécritures, les coupes budgétaires.
Ouais. Faudrait voir combien il y a de personnes qui ont bossé sur l'écriture du film. Ça, souvent, quand t'as plus de 3 personnes, c'est que. Bah, en fait, beaucoup de gens, au moment de la production, beaucoup de gens se sont barrés au fur et à mesure.
Ouais,
et c'est pour ça que du coup, la chorégraphe a fini en coproducteur. C'est que il y avait plus personne.
En fait, il y a aussi un énorme problème, c'est qu'une bonne comédie musicale, et généralement, c'est vachement travaillé, et c'est pour ça que ça devient un succès à Broadway avant d'être adapté, c'est qu'il faut que les chansons fassent évoluer l'histoire. C'est un peu comme un bon dialogue ou même une bonne scène d'action quand t'as deux personnages qui se battent, il faut que ça raconte quelque chose. Si c'est juste deux personnages qui sont en train de se mettre des coups de poing mais que ça raconte rien et qu'il n'y a pas d'évolution dans la bagarre,
il n'y a pas d'enjeu même.
Bah, là, en fait, les chansons.
Tu enlèves les chansons du film, ça ne change rien.
C'est-à-dire
c'est
que,
pas
par
normal.
Exemple, la chanson sur la reproduction, bon, vous êtes fan, moi, je n'ai pas trouvé si top que ça, mais ok, t'enlèves cette chanson. Il manque rien et c'est comme ça
c'est
avec
vrai.
Toutes les chansons. Il n'y a aucune chanson qui est indispensable dans le déroulement du film.
Mais je trouve qu'il y a un petit peu ça avec le premier Grease. Le premier Grease, si vous l'avez en vinyle ou si vous l'avez déjà pris, c'est un double vinyle. Ce qui veut dire que c'est très long. Et en fait, il y a effectivement 5 tubes planétaires, mais de fou, qu'on adore tous ici.
Oui, Mort, etc.
Voilà. Et en fait, le truc, c'est que le reste des chansons, quand même, dans le premier Grease, il y en a des très oubliables d'une et il y en a pas mal qui ne font pas avancer l'histoire non plus.
Alors, pour le coup, bon, comme tu le sais, je ne suis pas d'accord avec toi là-dessus. Et en fait, toutes les chansons de Grease, si tu parles de l'adaptation vraiment Broadway, c'est beaucoup de danse, beaucoup de spectacle, beaucoup de choré. Et c'est vraiment pas une comédie musicale à histoire. Et
toutes les
chansons, mine de rien, certes, je pense qu'on peut les enlever, et notamment de l'adaptation filmique, parce que le plot est assez simple et assez clairement expliqué. Mais toutes les chansons racontent quelque chose. Et bah, du coup, je suis pas d'accord avec toi pour le.
Moi, pour mon avis du film, en fait, ce film m'a beaucoup frustrée. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses. Je saurais pas comment dire, j'ai l'impression que ça n'allait pas jusqu'au bout. Je ne comprenais pas les personnages. Il y a un truc qui m'a un peu gênée en filigrane de cette évolution de Mike.
Michael, qui est donc le petit anglais qui connaît, qui est un peu intelligent et tout, qui devient genre un pur citoyen américain qui fait de la moto, qui a ses petits cheveux gominés et tout, ça m'a un peu gênée.
Après, c'est le mood années 60 vraiment de l'époque, il y a le côté trop américain.
Mais là, pour rejoindre Léa, c'est-à-dire que le film, au début, nous promet une espèce d'inversion de vapeur, en fait, entre le nerd et la badass. Et en fait, le truc, c'est
elle
que...
Elle est pas badass.
Elle est pas badass.
Elle est chiante.
Elle n'est pas
tant nerd que ça. Il conduit sa moto en 5 secondes.
Ouais.
Le problème, en plus de nos deux personnages principaux, en plus de ne pas avoir de personnalité, sont limite désagréables. Stéphanie, Michelle Pfeiffer, que j'aime beaucoup aussi, Stéphanie n'est pas agréable. Elle n'est pas agréable à suivre. Elle se dit, je suis quelqu'un de libre. Et en fait, vraiment, 20 minutes plus tard, t'as la chanson Cool Rider qui arrive, même pas 20 minutes, 10, où en fait, non, moi, je veux un mec.
Je veux un mec qui conduit une moto. Bah, déjà, t'en as 20 chez les méchants. Pourquoi est-ce que tu attends quelqu'un?
C'est le truc du Ordinary, c'est vraiment ça. Genre, tout le monde conduit des putains de motos dans cette ville. C'est pas.
Moi, je veux pas n'importe quel biker, tu vois.
Pourquoi tu prends pas ta moto et tu conduis ta moto si c'est vraiment ton développement de personnage?
Attends que ça devienne un T-Bird à sortir avec lui. Donc, en fait, elle respecte les règles.
Ouais, elle respecte les règles. Elle est pas outlaws. Et pour Michael.
Et par contre, tu la regardes un petit peu en arrière-plan, Michelle Pfeiffer, pour le coup. Dès que tu la vois un petit peu, t'as l'impression que littéralement, elle joue pas à quelqu'un qui se fait chier parce qu'elle est trop cool. J'ai vraiment l'impression qu'elle se fait chier.
On a pas l'impression qu'elle a envie d'être sur le film. Ouais.
C'est vrai.
Ça te met un peu quelque chose de désagréable vis-à-vis de ça, antipathique.
Et en plus, pour le personnage de Michael, donc du coup, le côté un peu nerd qui a du mal à sociabiliser, en fait, non. C'est pas vrai. Il a énormément de répondants quand il est avec les T-Birds, par exemple, quand il fait leur devoir. Il est en mode, ouais, t'as mon devoir, ouais, t'as ma thune. Mm. Le mec a hyper du répondant. Mm. Il sait construire une putain de moto. C'est pas un loser.
Oui, là où Sandy, dans le premier film, vraiment, elle est extrêmement coinceuse, mais c'est insane.
En fait, ce que je trouve très très drôle, c'est qu'il est, ce que je disais un petit peu, il est hyper ridiculisé en tant que super motard. Et tu te dis, attends, mais vous essayez de le mettre comme sauveur de l'humanité, incroyable, trop stylé, en cure avec sa moto, ou vous essayez de le ridiculiser constamment? Parce que j'ai vraiment explosé de rire quand il allume la clope de Stéphanie et que t'as un plan sur lui, t'as une espèce de plan en contre-plongée qui répond en plus directement, genre 5 minutes avant.
La réalisatrice et la chorégraphe, c'était son premier film aussi.
C'est-à-dire, ça pourrait être juste filmé face à face. Là, il y a quelque chose, il y a une envie de faire quelque chose, il y a une envie de recherche d'image. Quelques secondes avant, t'as une image absolument incroyable, un contre-plongée où tu vois le gang des méchants sur leur moto avec une lumière derrière, de la brume. Ils sont menaçants, ils sont tous dans le cadre. T'as le premier en premier plan et ça fait une espèce de long focal. Enfin, le plan est super beau. Et 5 minutes après, t'as ce plan de Michael qui est mal cadré, qui est complètement rapetissé parce qu'ils ont pas pris ce qu'ils ont fait, c'est trop bizarre, avec sa grosse main et son petit bric. Et j'ai explosé de rire. Mais il est pas du tout sexy là, il est ridicule.
Il est pas en mode héros ou quoi que ce soit.
Pas du tout.
En fait, c'est que dans les comédies musicales en général, et surtout pour une nana qui du coup fait de la scène normalement, quand tu réalises un truc, c'est censé être drôle. Vraiment, le comique dans les versions scéniques, elles sont, enfin ouais, les versions scéniques, c'est très très appuyé. Mm. Et là, tu réalises un film, ça ne marche pas.
Mais oui, mais c'est ça. En fait, il est vraiment tourné en ridicule sur des choses, mais c'est pas complètement. Donc, j'étais là, genre, mais j'ai pas l'impression de rire avec le film, j'ai l'impression de rire du film.
Il y a des moments où le film, il sait pas si il essaye de faire une suite ou une parodie ou les deux à la fois.
Ouais.
Et même lui, il sait pas ce qu'il doit être, et du coup, bah, c'est compliqué.
Bah, en fait, déjà dans le premier, il y avait des moments où les personnages étaient tournés en ridicule. Mais le truc, c'est que comme c'est bien écrit et que même si l'histoire est très simpliste dans le premier Grise, il y a une alchimie, les chansons sont cool et l'histoire est entraînante. Et du coup, ça donne un côté un peu goofy où personne ne se prend trop au sérieux. Ça donne un côté pop, un côté léger. Quand tu fais le même truc, mais avec un film maladroit qui a été fait, il est sorti 4 ans après le premier Grise. J'imagine que pendant 1 ou 2 ans, en plus de ça, ils ont dû essayer de travailler au corps John Travolta et...
c'est littéralement ce qui s'est passé.
Je pense qu'ils ont dû se retrouver en moins de 2 ans à écrire une comédie musicale qui est vraiment pas facile, à trouver des acteurs, à monter le truc et à le sortir. Et ça donne un truc où, que ce soit l'histoire, les chansons, tout est un peu branlant. Et le côté goofy qui marchait bien dans le premier devient juste ridicule, mais ridicule aux dépens du film. Alors que normalement, c'est censé être la petite touche en fait qui vient apporter une petite finition en haut du gâteau à la fin et ça vient gâcher le truc.
Ouais, je suis d'accord parce qu'en fait, Grise, il a un jeu d'équilibriste tout le temps où il peut être très ridicule à ses dépens, mais il a tellement de charisme.
Il
a tellement de charisme qu'en fait, finalement, tout passe. On ne sait pas comment. Bah, c'est, enfin, on se doute que c'est le charisme. Et le 2 n'a pas ça. Mais je pense que je résumerais ce film comme ça. Grise 2, c'est Grise 1 sans charisme. Pas d'acteurs principaux qui crèvent l'écran. Pas des chansons de dingue. Pas non plus des grosses merdes. C'est moyen. C'est de l'eau tiède.
C'est oubliable.
Est-ce qu'on voterait pas les gens ? Léa, Grise 2, est-ce que tu le sauves ?
Alors, je ne sauve pas le film, mais je sauve les chansons. Je les ai bien aimées.
Le truc qui est cool, c'est que cette fois-ci, on est 5, donc ça veut dire qu'il pourrait pas y avoir
ouais. d'égalité.
Grégoire, on t'écoute.
Écoute, il est nul, mais j'aime bien ce qui est nul. Et en vrai, j'ai passé à la fois un très bon et un très mauvais moment devant. Mais du coup, je le sauve parce que il y a un petit côté maso en moi qui dit que c'était quand même vraiment drôle.
Cortès ?
Ben, malgré tout, je sauve le film un peu pour les mêmes raisons. C'est que, mine de rien, avec tous les problèmes qu'on a dit, le film se tient et j'ai quand même retrouvé un peu l'ambiance grise, on va dire, pendant 50% du film. Et malgré tout, ouais, j'ai passé un bon moment.
Je rejoins l'avis de mes deux prédécesseurs et je sauve le film parce que il y a l'ambiance, parce que mine de rien, en vrai, je m'attendais à ça. Et si au bout de deux visionnages, je commence à un peu être accroché par les chansons, bah ça fait le taf, quoi.
Alors moi, j'ai trouvé ça incroyablement long. Je ne sauve pas. Vous êtes trois à vouloir le sauver pour deux pour, donc il va être sauvé. Non, moi, je trouve vraiment trop long. Je trouve complètement. Putain, j'ai eu l'impression d'avoir perdu deux heures de ma vie.
Dis-moi, Eric, qu'on se mette d'accord. Eragon, tu l'as pas sauvé ?
Oui.
Lolita, tu l'as pas sauvé.
Non mais je pas les films en fait.
Tu passes un bon moment dans ce projet avec toi.
En fait, c'est vraiment la session BDSM de Thierry. C'est très simple, mais c'est très.
Une fois par semaine, il regarde un film qu'il aime pas et il passe deux heures à en parler pour dire qu'il aime pas.
Très bien. Donc quand on compte, ça fait trois personnes qui le sauvent, deux personnes qui veulent le démolir. Ça veut dire que on sauve le Grise 2 et on lui donne du love. Bravo les gens.
Oui.
Je regrette un peu, mais c'est vrai qu'il vaut le coup d'être vu.
Et c'est le premier film qu'on sauve du podcast.
Non, Eragon a été sauvé.
Oui, tout ça.
Je comprends toujours pas pourquoi, mais il a été sauvé.
Et donc, dans ce podcast, on termine par deux recommandations. Cortès, je crois que tu as une recommandation pour nous.
Oui, la première recommandation, c'est aussi une comédie musicale.
Cool.
Et il y a aussi des motos.
Oh,
il y a aussi des motos, il y a aussi cette ambiance un petit peu années 50-60 rock'n'roll avec des paillettes et où ça chante mieux. Ça chante largement mieux.
Avec un moteur qui meurt, mais pas vraiment.
Mais un moteur. Est-ce qu'il meurt pas vraiment. Il y a beaucoup de points communs. Et ce film, donc, c'est le Rocky Horror Picture Show.
Que vous pouvez venir découvrir tous les vendredis et samedis soirs au 42 rue Galande à Paris, évidemment, avec le vendredi avec les Panic Babies et les samedis avec nous-mêmes.
Tout à fait. Et donc, c'est la troupe des Time Slips qui anime le Rocky Horror Picture Show. Et donc, c'est grâce à ce spectacle et à ce film qu'on s'est réunis. Et c'est de là qu'est né d'ailleurs le podcast, si vous nous écoutez. Pour la toute première fois. Donc matez le film ou venez directement au Studio Galande à Paris pour nous découvrir sur scène, ça va être super cool.
Ça
et pour la deuxième recommandation, je crois que tu as un film à nous recommander.
Oui, Léa. Alors je me souviens plus exactement, je sais que ça se passe dans l'espace.
Ouais.
C'est un dessin animé.
Ouais.
Ça n'a pas été très très bien reçu au niveau budget lorsque c'est sorti. Ouais, voilà, il y a des vaisseaux spatiaux, c'est un peu des genres des pirates de l'espace, quelque chose comme ça, mais enfin je me souviens plus trop. Donc mon conseil, c'est d'écouter le. Vous pouvez nous donner vos idées déjà dans les commentaires si vous avez trouvé, et puis vous pourrez.
Et puis sinon, ouais, je pense que ça va être le film qu'on va traiter la prochaine fois.
Oui, c'est ça. Vous pourrez écouter au prochain podcast.
Donc, ok, c'est terminé. Si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like sur votre plateforme d'écoute. Ça nous fera toujours plaisir. Et sinon, pour terminer, on vous fait tous des gros bisous.
Des bisous.
Des bisous.
Ciao.
Bisous.
comme Travolta. Toutes les nanas tombent dans les bras. Alors bébé, accroche-toi et trouble-moi. Ta lignée.